Oh, voyez-vous, ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi.
Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as dit une petite tête de mon gorgon?
Ça veut dire qu'on est piégé, chacun pour sa peau.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Moi, je ne suis pas si réjouie que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette bête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour!
Bonsoir!
Yo!
Ah, c'est vrai que
bonjour ça Mathilde, comment ça va?
Ça va mieux parce que après Cerimania, j'ai eu le coco-vide. Encore. Encore. Bah, dans Festival International de Série, il y a le mot international. Donc, ça voyage.
D'accord.
Le Covid voyageait à Lille, apparemment.
Peut-être que le train a aidé aussi.
Ça se peut.
Et le métro.
Maybe. Et ouais. Bah, que moi après. Il y en a qui ont des défenses immunitaires plus importantes que d'autres.
Mais t'as fait ta quatrième dose peut-être aussi.
Pas non. Du tout. Et toi Damien, comment ça va? Bonjour.
Je vais donner le Covid aussi.
J'ai eu aussi je pense le Covid, mais moi c'est passé plus vite, donc tout va bien. Je suis encore un peu fatigué, mais je suis en pleine forme. Non, ça marche pas cette phrase. Je suis encore un peu fatigué, mais je suis plus en pleine forme.
Il avait un humour ravageur aujourd'hui.
Ravageur.
Vous avez raté quelque chose. C'était
la fatigue du
incroyable.
Coup. Du coup, mais c'est quand même mieux qu'avant. Ce qui est pas mal.
Oui, c'est vrai.
Et toi?
Eh ben moi.
Je sais pas.
Moi, ça va pas.
Moi. Bah. À chaque fois.
Moi, ça va pas parce que Salto nous a quittés.
Ah, bah oui, j'allais.
On en a parlé la dernière fois.
Petit ange parti trop tôt, Salto n'est plus. Ses antennes se sont éteintes le 27 mars dernier.
C'est un poème.
Bon, en vrai, ça s'est un peu éteint plutôt le 28, parce que, comme une sorte de baroud d'honneur de 24 heures. Son dernier salut aura été un mail envoyé à ses abonnés, nous remerciant d'y avoir cru. Une sorte d'ultime testament pour cette plateforme, sacrifié trop tôt pour des aventures solitaires, marqué d'un audacieux Max.
TF1 Max ?
Pas la ref.
C'est au trop jeune âge de 3 ans, 7 mois et 15 jours que la plateforme française qui n'aura jamais su trouver son public, occupée à brimer ces petites plateformes... Qu'est-ce que j'ai écrit?
Ça partait bien, il y avait une envolée lyrique. C'était chouette. Là, c'est le moment où...
C'est le moment où il faut arrêter de parler.
Je sais plus ce que j'ai voulu dire, là.
Oh.
Merci, Salto, d'avoir existé.
Très bon début.
Merci d'avoir réussi à être complémentaire face aux géants états-uniens. Merci de nous avoir fait croire que c'était possible de proposer un service de SVOD français éclectique, un peu nostalgique, réjouissant et inventif.
Merci Salto de nous avoir remboursé.
C'est vrai,
il s'est fait ça.
Comme si on n'avait pas payé.
Ah waouh, oui.
Non, mais parce qu'on est. Ouais, ils ont tout remboursé.
Faut dire que vous étiez les seuls, donc bon. Non, on s'en doute pas, mais. Ça ne fait pas rire du tout. C'est vraiment triste, premier degré.
C'est vraiment triste.
Voilà.
Bah oui, ça fait de la peine. Hein. Mais bon.
Et bah cette semaine, on va parler de You, saison 4 sur Netflix.
Pas de DJ de mariage.
Pour parler de You, on aurait pu garder ça. Hein.
Oui.
Ouais, non, mais c'est trop nul.
Pour LOL, Kiri sort saison 3. Bon, cette phrase n'était pas française. On va en parler aussi
tout à fait.
Sur Prime Video. Et on va aussi parler de Shadow and Bone, la saga Grisha, la saison 2, sortie sur Netflix.
Bouh !
Mais avant de commencer, on va parler un peu d'actu. Il y a du rififi chez Mercredi.
Rififi.
Il y a.
Je crois que c'était pour lancer Mathilde.
Non.
Qui réagissait pas, ça me faisait rire. Mais oui,
non, après des conflits pendant le tournage de la série entre Jenna Ortega, face au scénariste et à Tim Burton.
Qui est l'actrice principale?
Alors attends, qui est avec qui? Tout le monde est chacun dans son
coin. Jenna Ortega est contre les scénaristes et Tim Burton.
Ah, d'accord. Voilà.
L'actrice a décidé d'endosser le rôle de productrice exécutive de la saison 2 pour avoir un meilleur contrôle de son personnage. Parce que c'est un peu ce que tu avais relevé, Mathilde, que Mercredi faisait n'importe quoi et que c'était pas trop fidèle à son personnage.
Aucun respect pour ce personnage.
Visiblement, l'actrice est assez d'accord avec toi.
Oui, c'est vrai. Un des principaux points de divergence concerne les relations amoureuses de Mercredi.
Bien évidemment.
Où Jenna Ortega a dit, je cite, « Rien de ce que fait Mercredi, rien de ce que j'ai eu à jouer ne faisait sens pour ce personnage. La mettre dans un triangle amoureux, c'est le monde à l'envers. »
Exactement, elle aurait dû aller dans Stranger Things. Ça n'avait aucun sens.
Bien joué.
Non mais en vrai, oui, j'étais d'accord.
Voilà. Non mais c'est cool, on verra si la saison 2 du coup respecte mieux son personnage principal.
Moi j'aime bien comment elle fait un gros coup de gueule et a dit « ça m'avait tout changé ».
Bah, c'est bien.
Je trouve ça
bah oui, c'est cool, ouais. Damien, tu as de l'actu aussi ?
Ah mais oui, tout à fait. Je l'ai rajouté vite fait. J'ai pas beaucoup d'infos parce que y a pas beaucoup d'infos pour l'instant. Mais Mae Martin, qui avait fait Feel Good, dont on avait parlé, qui était sorti sur Netflix, qui a 2 saisons et qui est très bien, va être showrunneuse et peut-être joue dans un nouveau show Netflix. J'ai cru voir qu'il y avait 8 ou 10 épisodes. C'est un thriller qui s'appellera Tall Pines.
Donc pas voilà. Dans l'humour.
Pas de blague, ah. Un thriller.
No joke.
Mon funeral.
Ok.
T'as dit quoi?
On va en passer maintenant au Hypito des Pitos. Au niveau du Hypito, j'ai
Mathilde.
Mathilde a rien.
Non, mais moi, franchement, j'ai tellement regardé de séries et de trucs que je viens pour vous en parler.
Touriste.
Non, bah.
Je viens pour en parler. Ah oui, de ce que t'as déjà vu.
Bah écoutez, non, j'ai un hypito.
Ah !
Ça valait quand même le coup de poser la question.
J'ai un hypito. Le hypito, c'était Série Mania. C'était trop cool. C'était en mars, donc ça fonctionne. Et c'était trop bien de pouvoir faire un petit récapito inédit.
Il est chouette. Je l'aime bien.
Je ne l'ai pas du tout écouté.
C'est bien dommage.
Mais bah, j'ai parlé dedans.
Le format est un poil différent de ce qu'on fait d'habitude.
D'accord. Fatiguée. Le format était peut-être fatigué comme moi à ce moment quand j'enregistrais. C'était épuisé.
C'est vrai que le dernier jour, on est épuisax.
C'était celui de la
Alors
maison.
Alors que là, vous êtes en pleine forme.
Non, pas
oui,
du tout.
Je peux faire un récapito de 5 heures.
Oh.
Non.
Bah heureusement parce qu'il est méga long, il arrive là.
C'est pour ça qu'on ne va pas traîner. Moi, Hypito, moi, c'est la bande-annonce de Secret Invasion qui est sortie la semaine où on enregistre. C'est la prochaine série Marvel Studios sur Disney+. Évidemment, c'est une série qui est intimement liée à Captain Marvel puisqu'elle parle de Nick Fury, des Skrulls, la race extraterrestre qu'on voit dans Captain Marvel. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Ça me fait un peu penser à Endor, donc j'espère que ça ressemblera à Endor, la série Star Wars que j'avais adorée.
Ça serait bien. Et que ça soit pas... le nom de la prochaine campagne d'Éric Zemmour.
Oh la vache.
Oh là là.
Et...
Next.
Mon humour est irrésistible.
Oui. Bah, pardon, mais c'est un peu son thème de campagne. Donc...
C'est vrai, c'est vrai.
No, God, please, no! No! No!
On est engagé politiquement, qu'est-ce que...
Et sinon?
Bah Damien, à Hypito.
Ouais, oui, mais bah j'attendais qu'il
on l'attend.
On l'attend,
qui
ouais.
La série The Power, que j'ai vraiment beaucoup aimé les 3 premiers épisodes.
Mais on n'en parle pas parce que c'est pas fini, les gars.
Oui, et bah c'est et littéralement plus... pour hyper.
Mais, mais tu sais qu'on leur en a déjà parlé.
Bah écoute.
On leur a déjà parlé dans série.
Ça vaut le coup de remettre une couche.
C'est vrai.
C'est diffusé en ce moment sur Prime Video.
Oui,
on en parlera au mois de mai.
Ouais. Ça va durer longtemps parce que c'est dans longtemps.
Ah, oui.
Ouais, il y a
9
saisons.
9 saisons, c'est beaucoup.
9 épisodes, 9 semaines, quoi.
Ouais.
Ok.
On va maintenant passer sans plus attendre aux séries du mois d'avril. On va commencer avec Salto.
Mais non! Tu l'as déjà fait, Emilien. Tu l'as déjà dit. Ah, si t'as modifié le milieu. C'est...
Non, avec Undo Stress, la dernière fois qu'on parlera de Salto, c'est avec Undo Stress. On a regardé avec Mathilde les trois premières saisons.
On a fini la 4 ?
Non, on l'avait pas fini. Ce qui fait 62 épisodes de 45 minutes. C'était sorti entre 2002 et 2003, et si jamais vous ne connaissez pas Undo Stress, voici un résumé. 20 jeunes espoirs vont entrer dans la meilleure école des arts de la scène, l'Académie de Carmen Arantz. Personne dit que c'est une académie, jamais. Ils devront y perfectionner leur talent pour la danse, la musique et le théâtre. Et le chant, tout le monde s'en fout encore. Et devenir de véritables professionnels du spectacle. T'as des trucs à dire dessus ? Mathilde.
Bah, ça a mal vieilli, hein. On va pas se mentir. Quand j'étais ado, j'adorais et tout. Lola, trop bien. Les grosses buffalo, d'ailleurs, qui reviennent à la mode. Et merci pour ça. Je suis trop hypée par les buffalo. Mais du coup, il y a plein de choses pas ouf, quoi. Les meufs qui parlent que de leur relation avec les mecs. Les mecs qui sont horribles. Vraiment, tous. Il y en a peut-être un, de temps en temps, qui est pas mal.
Géro ?
Bah, Géro est pas non plus incroyable.
Géro est vrai dans la saison 4, mais saison 2 et 3, il est irréprochable.
Non, il fait des trucs pas ouf avec Lola. Des fois, il l'attrape, il lui met les mains aux fesses ou des trucs comme ça. Il lui fait des
c'est
bisous.
Vrai.
Ça y est, Emilia considérait que c'était marrant.
Non.
Non, c'est juste que je pensais que Géro était le seul personnage récupéré. Ouais,
non, franchement, Archibald. Non, comment il s'appelait
Personne s'appelle Archibald.
C'est un mélange avec
Cristobal.
Cristobal, peut-être pas trop mal.
Après, Cristobal, son premier cours, il est tout nu devant ses élèves quand même.
Oui, mais je crois qu'après, il s'arrange.
Si c'est un prof de dessin.
Il... Après, quand il y a Adela qui le largue et qui se fait tromper et tout cocufié, là, il devient un peu plus humble,
est,
je
oui,
crois.
Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai.
Non, mais on n'est vraiment pas sur des bonnes valeurs, on va pas se mentir. Et puis, il y a par exemple Pedro, ou alors tout le monde adore Pedro, mais Pedro, c'est le pire.
C'est le pire.
Roberto, bien évidemment. Vraiment.
Roberto, il fait plein de merde, mais c'est un meilleur perso que Pedro.
Et puis, on va pas se mentir, les chorégraphies de danse sont...
c'est
waouh. Waouh. Non, mais surtout celle de... Bah, tu vois, on a arrêté de regarder, j'ai perdu les noms.
Diana.
Surtout celle de Diana. Je sais pas. Vraiment, c'est toujours, ça se finit toujours pareil, les uns vautrés sur les autres.
Oui, ça finit en tas d'humains au milieu de la salle dedans.
Toujours de la sexualisation.
Et que des
choses
rapports hétérosexuels.
Des choses qui n'ont rien à voir avec la musique, bien évidemment, sinon ça serait pas mal, mais non. Non, on est vraiment sur...
Avec la musique qui passe au moment.
Mais bon, bah, ça reste une série où on aime suivre ces persos un peu chelous. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. J'aimerais bien pouvoir voir la suite, en vrai. Je suis déçue de ne pas pouvoir finir.
Bah ouais. C'est sur YouTube.
Parce que je ne me rappelle plus de la fin.
C'est sur YouTube.
Ok. Bah, on va plus regarder sur YouTube.
Dans une qualité dégoûtante.
Oh, et bah... avec des pubs.
Oui. De moi, j'avais regardé cette série quand j'étais jeune. Et j'aimais beaucoup, beaucoup. Et en fait, mes souvenirs m'ont encore joué des tours parce que c'est une catastrophe. C'est très intéressant de regarder cette série des années 2000 avec nos yeux de 2023, comme à chaque fois qu'on fait ce genre de truc, parce qu'on voit tout ce qui va pas dans le scénario qu'on voyait pas à l'époque. Au-delà de tout ce que t'as dit sur les personnages, sur tout le côté cringe et toxique, l'écriture de la série est vraiment pas terrible. Il y a plein de trucs qui se passent. On parle de choses graves en plus. On parle de viol, on parle de
boulimie,
donc de troubles alimentaires compulsifs. Et c'est tellement mal abordé.
Ah oui, non, mais vraiment.
C'est
très
tout
mal.
Est fait. Tiens, si on parlait de boulimie, bah tu connais quelque chose ? Bah non, mais ça doit être juste des meufs qui se font vomir. Et c'est juste, voilà, vraiment, c'est comme. C'est une catastrophe.
Fermez les frigos, Martha, arrive.
C'est ça. On va la forcer à arrêter de manger. Enfin bref, rien ne va. Et en fait, c'est. Quand ces arcs se résolvent, il n'y a jamais de conséquences. On n'en parle plus jamais.
Ah non, c'est fini.
De rien. Donc c'est... Enfin voilà. Et malgré tout quand même, on rigole bien en regardant cette série. On rigole bien parce que c'est cringe.
On est un peu nanar quoi du coup.
Ça fait un peu nanar, exactement. On va passer à une autre série... Un peu cringe.
Par contre, dans le cringe. Oui.
C'est une nouveauté. Mathilde, est-ce que tu veux en parler ?
Est-ce que je peux lire ce que j'ai écrit? C'est incroyable. J'ai marqué « J'ai pas besoin d'écrire quoi que ce soit, je sais que ma haine pour cette série va se déverser tout naturellement.
» Il s'agit de You.
Non.
Saison 4.
Tu veux pas en parler?
Compte 10 épisodes de 49 minutes. La partie 1 est sortie en février.
Ah, parce que c'est en deux parties.
Oui, en plus. La partie 2 était sortie le 9 mars 2023. C'est évidemment sur Netflix. Et si jamais vous connaissez pas encore You, eh bien, un résumé rapide. Dit que Joe, le gérant d'une librairie new-yorkaise, devient obsédé par une fille, une jeune aspirante écrivaine qui partage sa passion pour les livres et la poésie. Persuadé qu'ils sont faits l'un pour l'autre, il va alors se servir des réseaux sociaux pour nourrir son obsession, savoir en permanence où elle se trouve et ce qu'elle fait, et tenter de faire tomber tous les obstacles qui pourraient se dresser en travers du chemin de leur possible romance. Quitte à commettre des actes totalement fous, littéralement des meurtres, pour ne pas le dire.
C'était que le début.
Et bah, si, oui.
Ça, c'est la saison 1.
Hein. Bah, si tu veux, je commence.
Bah, tu veux pas qu'on dise le contexte, là? On a la saison 4.
4. Et alors, il continue de tomber amoureuse de meufs. Et il tue les autres pour...
Oui, bah, il a eu une femme, un enfant, quand même. Entre-temps, il s'était posé.
Oh, c'est vrai.
Finalement, il a abandonné son fils chez des gens. On n'en reparle plus jamais.
Et sa femme?
Et sa femme, il l'a butée. Donc là, il est parti d'abord à Paris pour suivre Marianne, qui était une meuf dont il était amoureux. Finalement, il a appris que Marianne était à Londres, donc il va à Londres. Et voilà, là, on est à Londres et il se fait passer pour un prof dans une université à Londres. Et il gagne de l'argent et c'est un vrai Américain qui dit « Oh, Londres, Londres est incroyable, les gens ici lisent. C'est incroyable une ville où les gens lisent. » Voilà, on en est là jusqu'au jour où il tombe sur une autre meuf. Et d'autres gens.
Voilà.
Et là, ça part en Qui a tué Sarah.
Ça part un peu en Qui a tué Sarah et en whodunit assez mal fait. Je vais faire court pour parler de You. Il était temps que cette série s'arrête. Ou alors, il est temps que cette série s'arrête.
Elle s'est pas arrêtée. Hein. En fait, je croyais que c'était la dernière saison.
Ça a été une suite à parce que j'ai rien vu.
Bon, en fait, c'est une grosse ouverture. Donc, oui. Moi, je pense qu'ils vont continuer.
C'est sans doute éternellement continuable, non? Tant qu'il ne tue pas le perso, qu'il...
Bah, c'est ça. Parce que dans la saison 4, la mécanique, elle essaie de se renouveler. Elle y arrive assez bien parce que c'est le stalker qui devient stalké. Mais ça devient très malsain de continuer à iconiser un psychopathe. Même pire, en essayer de nous faire avoir de l'empathie pour ce mec et faire en sorte qu'il s'en sorte toujours alors qu'il mérite juste d'aller en prison ou de mourir. Ça devient très problématique en fait comme série. Parce que en plus le scénario sort au bout d'un moment de son chapeau magique la maladie mentale pour justifier les agissements de Joe, du personnage.
Enfin, rien que le synopsis, ça fait pas chapeau magique, quoi, dit comme
non,
ça.
Mais oui, non, mais il y a une différence entre avoir des troubles de base et là, par exemple, il devient schizophrène.
Ça sort de nulle part, il est atteint d'une vraie schizophrénie qui est un peu...
Ça fait vraiment genre le type est a tellement fait n'importe quoi que... Oh, il devient schizophrène. Oui, comme si la schizophrénie, en fait, c'était que quelque chose qui arrivait à des gens malhonnêtes, en plus. Mm-hmm. Enfin, merci, quoi.
Donc, avant que la série sorte, ça devait être la dernière, mais le dernier épisode laisse une porte, une immense porte, bien, bien, bien ouverte. Mais il y a une saison 5 que je ne la regarderai pas. C'est terminado.
Quoi ?
Bah non, c'est fini. Je ne veux plus donner mon temps et des vues à cette série.
Moi, il y a vraiment... Dans l'épisode 1, il y a une phrase qui est dite par une fille qui dit... en gros, ils sont en cours et une étudiante lui dit « Où est la rédemption si sa motivation est égoïste ?» En fait, il parle de rédemption et il dit tout le monde peut avoir de la rédemption et tout. Et Nadia a dit bah non, parce que si ta motivation elle est égoïste, on peut pas te donner rédemption en fait. En fait, ça part du principe que là, Joe, par exemple, lui, pour lui, il veut survivre, il est méga égoïste et il est en mode mais c'est pas de ma faute, faut que vous me pardonniez, je fais ça pour vous. Souvent, il dit il fait ça par amour, il fait ça par ci, par sous, enfin, tu sais pas pourquoi. Et en fait, c'est ça, je trouve que la série. Cette phrase, elle résume tout. C'est qu'en fait, il pensait peut-être que Joe allait qu'on allait avoir de l'empathie pour lui parce que quelqu'un était méchant avec lui et il s'avère que c'est lui-même. Il se fait martyriser par lui-même, en fait.
Oui, ça vient un peu à Fight Club aussi. Ouais.
Oui, c'est vraiment Fight Club. Vraiment. Mais en fait, il paye pas.
C'était décevant, en fait.
À aucun moment...
Pardon.
Il a dit que Fight Club était décevant.
À aucun moment, le personnage, il paye, en fait. Et c'est pas possible de laisser courir comme ça. Et là, c'est même plus genre, il tue des gens ou des femmes qu'il aime ou des femmes pour faire leur histoire d'amour. Il va tuer les gens, enfin, les copains ou tout ça. Non, il se met vraiment à tuer des gens innocents, en plus, qui rencontre, il se dit tiens, je vais buter telle personne. Mmh. Et c'est vraiment. Vraiment, t'as envie de vomir. Moi, le dernier épisode, j'étais en mode bah, en fait, non, tu peux pas faire ça. Ça fait vraiment. Les hommes blancs font ce qu'ils veulent, surtout quand ils sont riches. Parce qu'en fait, là, c'est ça. Il se trouve une meuf qui est riche et du coup, il fait ce qu'il veut.
Est-ce que finalement. cette série vise pas le but qu'elle est en train d'atteindre, c'est-à-dire de vous faire vous rendre compte de choses.
Qu'il faut pas tuer des gens parce qu'on pense que ces personnes nous aiment. Okay. Pas besoin de voir la série pour.
Moi, avant, je savais pas.
Non, mais je trouve que je partage pas cette avis-là parce que la phrase que t'as citée au début montre qu'en fait les scénaristes ont conscience. Aussi en parlant de la rédemption, de l'égoïsme, etc. C'est-à-dire que c'est cynique parce que les scénaristes, en pleine conscience, font en sorte que le personnage trouve sa rédemption, alors qu'il y a littéralement un personnage qui dit « Non, quand tu agis égoïstement, tu peux pas avoir de rédemption. » Donc c'est-à-dire que les scénaristes sont pas genre dans une bulle à se dire « Non, on va faire un personnage qui fait des horreurs, mais il a un bon fond, ou c'est pas de sa faute. » Non, les scénaristes ont complètement conscience du personnage qu'ils ont créé, Et il lui offre une rédemption et ils font en sorte qu'ils en sortent toujours.
Ouais, et puis il cite Woody Allen dès le premier épisode. Genre vraiment.
Quel ref, super ref.
Premier épisode, 30 secondes, une petite citation de Woody Allen.
Woody, il a dû dire, bon,
après, on
cool.
a la phrase que j'ai dit. Où est la rédemption si sa motivation est égoïste? Et du coup, le mec de You lui répond: mais quelle importance s'il agit bien? Mais le bien, c'est subjectif, ça dépend de la personne. Tu vois. Mais en fait, toute la série, c'est ça, c'est vraiment un appel. Je sais pas, à l'énervement et à l'illettisme aussi. Enfin, il est vraiment super illettiste avec tout. Il est en mode, les Anglais par rapport aux Américains, c'est des gros beaufs. Enfin, les Américains, c'est des gros beaufs par rapport aux Anglais. Aucun peuple n'est aussi lettré que les Anglais. Les gens lisent vraiment ici. Ils ne se contentent pas d'acheter des livres. Ils les lisent jusqu'au bout. Enfin, vraiment, c'est un espèce de... On a l'impression de regarder... Emily in Paris, mais à Londres,
c'est
tu vois. C'est ça, hein, c'est vraiment une idéalisation du peuple anglais et de Londres.
Ouais.
Et tout est comme ça, genre qu'ils sont dans la rue, il n'y a presque jamais personne. Il est prof, mais il a un appartement incroyable.
En plein cœur de Londres, un appartement de ouf.
Vraiment, ça n'a aucun sens.
Ouais. On va passer à une autre série que tu as regardée, Mathilde.
Alors, on va parler de Daisy Jones and the Six, la saison 1 qui comptait 10 épisodes de 50 minutes. C'est sorti le 2 mars 2023 et c'est dispo sur Prime Video. C'est donc une nouveauté. Dans cette série, on suit les aventures d'un groupe de rock dans les années 70, de ses balbutiements sur la scène musicale de Los Angeles jusqu'au succès incroyable qui les fera devenir l'un des plus grands groupes du monde. Alors, j'ai regardé cette série parce qu'en fait, c'est l'adaptation d'un roman du même nom, écrit par Taylor Jenkins Reid, sorti en France en 2019, et c'est un roman qui a eu beaucoup de succès. J'ai pas lu le roman pour deux raisons. En fait, je crois pas que ça soit classé en young adult déjà, même c'est plus du coup, moi, ça parle pas que d'ado, quoi, ça parle aussi d'adultes et tout, et je lis pas beaucoup de littérature... adulte, mais c'est aussi parce que la thématique de base, bah, c'est la musique, et en fait c'est parfois compliqué de lire des trucs sur la musique quand t'as pas la musique, enfin je sais pas comment expliquer. Faudrait que je prenne le livre et que je regarde comment ils font.
Ah,
par exemple,
oui, okay.
En fait ça parle vraiment de musique, genre de création de chansons ou de choses comme ça, donc je sais pas si dans le bouquin par exemple il y a les textes où il y a déjà les paroles, tu vois, faudrait que je regarde comment c'est fait. En tout cas, cette série, elle est vraiment très sympa. On suit surtout l'histoire de Billy et de Daisy, qui sont en gros les deux membres importants du groupe. En fait, le groupe, au départ, c'est les The Six. Donc, c'est cinq personnes, je sais. Cinq personnes qui sont dans un groupe. Il y a un chanteur.
Ils devraient être sept, même.
Non, ils sont, là, ils ont The Six.
Daisy et les Six.
Là, ils sont cinq. Ils appellent les Six, ils sont cinq. Il y a Billy... son frère, une meuf qui est au piano et deux autres gars. Et du coup, on les suit eux et on suit également en parallèle l'histoire de Daisy Jones, qui est une chanteuse. Et j'ai trouvé la partie sur Daisy vraiment plus intéressante que celle de Billy. On va pas se mentir, Billy, de mon point de vue, c'est juste un mec qui supporte pas la pression, un lâche, qui assume pas sa famille, quelqu'un qui est vraiment très fier. Et les premiers épisodes avant qu'il rencontre Daisy, c'est pas vraiment intéressant. On a vraiment l'impression que le gars, il subit juste sa vie. Vraiment. Et donc, moi, j'ai vraiment eu du mal à m'attacher à lui. J'ai vraiment juste l'impression qu'il subit tout le temps sa vie, vraiment. Après, à partir de l'épisode 3, on suit l'histoire du groupe. Et là, ça devient vraiment super intéressant parce qu'on découvre également leur musique. Ça, c'est trop bien parce que la musique est vraiment ultra cool.
C'est des musiques originales.
Musique originale créée spécifiquement pour la série. La bande son
est super.
C'est pas
un vrai groupe.
Non, c'est pas un vrai groupe, c'est une histoire fictive.
Ok.
Ok, stylé.
J'ai pas trop envie d'en dire plus parce qu'il faut pas spoiler, mais personnellement, j'ai été très déçue par la fin.
Ah.
Genre vraiment.
T'as spoilé ?
Non, j'ai pas spoilé.
Je vais enchaîner avec un autre truc qui m'a déçu pour la fin.
Ah, je l'ai vu aussi.
C'est LOL qui ressort la saison 3, qui compte 7 épisodes de 28 minutes. C'est sorti le 10 mars 2023 sur Prime Video. Si vous ne connaissez pas LOL qui ressort, il s'agit d'un groupe de 10 personnes qui sont à peu près rattachées à l'humour. Chacun et chacune étant bien décidé à être le dernier ou la dernière à craquer. 6 heures durant, une seule règle comptera, Kiri perd la partie. Celui ou celle qui parviendra à rester de marbre jusqu'au bout remportera le jeu et pourra reverser ses 50 000 euros de dotation à l'association caritative de son choix.
T'as pas regardé Mathilde ?
Non, j'avais regardé la première saison et j'avais vraiment pas aimé. Je suis pas très marrante comme fille.
Moi j'aime pas l'humour. Avant de commencer, il faut que je vous raconte une petite anecdote avec Prime Video. J'ai regardé le premier épisode et ensuite j'ai arrêté, puis j'ai voulu relancer, mais la plateforme est tellement éclatée que quand j'ai cliqué sur le bouton reprendre, là où on est censé du coup reprendre à l'épisode 2, bah non, la plateforme a dit « Tiens, si je te mettais l'épisode 7 ».
Ah oui, 7.
Donc du coup, bah, j'ai été spoilé du trio final. Donc vraiment, il y avait beaucoup moins d'enjeux quand je regardais.
Plus, le début est toujours un peu pareil, t'as pas forcément eu le temps de te dire. Ah, c'est con. Parce que moi, souvent, ce qu'il me faisait, c'est qu'il me remettait... C'est pas très intéressant, peut-être. Mais la fin de l'épisode d'avant, plutôt que te passer au suivant quand tu m'étais juste poursuivre.
Ah, moi, je fais ça aussi. Il arrête pas de me sauter des épisodes.
Mais c'est tout. Ce qui est quand même moins relou que basculer du 1 au 7.
Ah ouais.
1 au 7, c'est un peu
le
dur.
Le pire, c'est quand t'appuies... T'essaies de faire passer le... Ils font pas un générique, mais ils font un précédemment. Oui. Donc ça, j'essaie de le passer et ils mettent l'épisode d'après.
Ah oui. Bah, l'interface est pourrie, hein, de toute façon.
Merci, Prime.
D'ailleurs, Jonathan Cohen le dit dans le qui ressort. Oui.
Ah oui, c'est vrai. Et après, il se dit « Ah, merde
!» Bon, autrement, c'est assez drôle. Le format est toujours aussi pas adapté à un découpage sériel, parce que c'est trop long. Je continue aussi de dire que ça serait parfait pour une soirée à la télé. Genre 2 heures, un prime de 2 heures ou 3 heures. Mmh. Exactement la même thématique en direct sur 2 ou 3 heures. C'est carrément mieux.
Ah, c'est vrai, mais je pense que le montage aide quand même.
Oui, certainement. Malgré tout, il y a des moments vraiment très marrants. Le casting est super bien et c'est ce qui m'a donné envie de regarder. C'est pour ça que j'ai pas regardé la saison 2 aussi. Et on découvre que Pierre Ninet est beaucoup plus drôle que Gad Elmaleh.
T'en doutais ? Pierre Ninet a l'air incroyable.
De base,
drôle.
Moi, tu me dis, est-ce que Gad Elmaleh est drôle ? Je me dis oui. Mais là, bon, après, il y avait aussi sans doute que lui n'est pas avec des gens qui fréquentent ou qui connaissent très bien, donc ça doit jouer. Mais vraiment, il ne fait pas grand-chose alors que Pierre Ninet
Ninet, non. Pierre Ninet, je savais qu'il avait l'air hyper sympa, mais là, il est extrêmement drôle.
C'est vrai qu'il est très drôle.
Il est hilarant.
Et moi je peux juste dire, je peux dire un truc.
Bah oui.
Je trouve que les associations, ils en ont rien à foutre. Je sais pas trop pourquoi. Mais vraiment, ils en parlent jamais.
C'est vrai. Jamais.
Ça me dérange pas forcément des masses, mais ça m'a surpris parce qu'au début, ils le mettent vachement en avant quand même en disant, ah, il y a quand même 50 000 euros à gagner. Et vraiment, il n'y a aucun focus qui est mis dessus, rien du tout.
C'est même pas comme dans Fort Boyard où on parle de l'association.
Mais oui, ils pourraient au moins laisser les gens en parler un minimum.
Bah ouais.
Et
c'est pas du non, tout ça fait un peu prétexte pour qu'on mette des gens privilégiés dans un truc et les faire gagner quelque chose. Quoi.
Et Laura Felpin était très, 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 très...
Elle est très drôle. Et en fait, quel dommage, mais je comprends d'avoir mis Georges Alain dans la bande-annonce parce que c'est un des plus grands moments de la saison.
Ouais.
Tristesse. Je dis rien pour ça, j'ai pas envie de regarder. Bah, il y a Georges Alain.
Non, mais vraiment, c'est... T'aurais ri.
On va enchaîner alors avant qu'il y ait un drame.
Elle a sorti un couteau. C'est un podcast.
On va parler de My Hero Academia, la saison 6, qui comptait 25 épisodes d'environ 23 minutes, dispo sur Crunchyroll. Alors la diffusion a commencé il y a au moins 6 mois, les gars, donc je ne vais pas vous dire quand, mais il y a au moins 6 mois, et le dernier épisode a été diffusé cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Pour rappel, on a tous déjà rêvé secrètement de posséder une qualité hors du commun, de briller ou d'être la personne la plus puissante de l'univers. Dans ce nouveau monde, ce rêve est à la portée de quasiment toute la population car les humains peuvent désormais naître avec un pouvoir.
Quasiment.
L'alter. Oui. Mais certains malchanceux naissent sans alter et mais c'est très fâcheux. Si on est chétif, pleurnicheur et dépourvu de charisme.
Bah, il est
et
pas...
surtout si malgré il tout ça, on nourrit l'ambition de devenir le méga super-héros du monde.
Oui, c'est sûr.
Ok.
Ouais. Le résumé était vraiment n'importe quoi. Après, là, on est à la saison 6. Voilà. Ça, c'était le résumé de la saison 1.
Mais d'un côté...
Les deux, ça résume bien. Oui. Ils sont tous dans une académie de super-héros et Deku, qui n'a pas de pouvoir, a maintenant un alter. Voilà.
Bon, ils sont plus dans une académie de super-héros parce qu'entre deux...
parce qu'il n'y a plus rien. Alors,
il y a 6 saisons, c'est passé des choses.
Cette nouvelle saison, elle est juste trop incroyable. Les premières étaient cool, mais là, l'histoire prend un tournant plus sombre et vraiment super prenant. Moi, j'ai trop aimé. Bon, c'est un peu triste aussi, hein, on ne va pas se mentir. Il n'y a pas que de la joie dans... cette saison. Et Deku est vraiment un héros super cool. Super... Il sourit pas trop, mais... mais non, c'est parce qu'il dit qu'il veut sauver les gens avec le sourire. Donc là, il sourit pas trop.
Donc, okay.
T'avais pas cette info, donc...
donc c'est pas drôle. Mais il est quand même trop cool. Moi, j'ai hâte de lire... ou voir la suite, même si je pense que je vais la lire parce que je vais pas attendre. Et voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, c'était trop bien.
Oui, bah j'ai pas grand chose à rajouter de plus. C'était une très bonne saison 6, mieux que les autres d'ailleurs. Et la fin va sans doute être incroyable.
Oui, parce que la saison 7 sera la dernière.
Ah, c'est bien. Enfin, c'est bien. Moi, non, mais je veux dire.
Quoi non. Tu oses dire que c'est bien, on va perdre My Hero Academia, Jujutsu Kaisen. Tokyo Revenger, qu'est-ce qui va nous rester?
Il y aura d'autres choses, Mathilde.
Qu'est-ce qui va nous rester à la 3 fin
3 milliards d'épisodes de One Piece. Non, mais c'était ça. Ma réaction, c'était par rapport à ça. C'était par rapport à ça, One Piece, où il y a 2000 épisodes.
Non,
peut-être pas 1000.
Il y en a 1000.
Bon, que 1000, d'accord.
Il y a 105 bah,
c'est toujours pas fini, alors que là, au moins, il y a une vraie fin et c'est pas trop long. Oui, Grey's Anatomy, ça fait 50 ans que ça existe.
D'accord.
Mais
comprends.
J'ai l'impression que sur les trucs récents, ils font des fins plus rapides. Genre, c'est pas. One Piece, ça a commencé il y a très longtemps maintenant.
C'est parce que
en
les.
1933, je crois.
À l'époque, on était en France.
Faut bien que les auteurs vivent, quoi. Je crois qu'en fait, plus ta série est longue, plus c'est complexe aussi. Hein.
En termes de quoi?
Bah, je crois qu'en fait, même les gars qui font des séries super longues, en fait, ils sont toujours dans la précarité comme les autres. Enfin, ils sont pas riches, ils doivent quand même sortir leur chapitre tous les mois là.
Ah oui, tu veux dire en tant que mangaka.
Enfin,
oui, mais
ils
là,
vont
c'est
mourir
leur...
quoi.
Bah, ils vont faire d'autres choses après.
Oui, mais enfin, en gros, le statut de mangaka au Japon est vraiment un statut super précaire quoi. Mm. Si tu pars sur une série super longue, enfin, peut-être qu'ils prennent des vacances des fois, donc c'est aussi pour ça que ils ont peut-être envie de faire des séries plus courtes.
C'est vrai.
Genre entre deux séries, bah, tu fais des vacances. Sinon, on peut parler d'une autre série qui est dispo sur Netflix. Elle s'appelle Chaque fois qu'on s'est aimé. C'est la saison 1 qui comptait 10 épisodes de 49 minutes et c'est sorti le 14 février 2023.
C'est un signe.
Ah
c'est
bon
l'amour.
Bah oui,
oui
c'est Saint-Valentin.
Oui, c'est vrai. J'avais pas réfléchi. Depuis leur rencontre, Irène et... Alors, c'est Julio. Parce que moi, j'allais dire Julio, mais c'est Julio. ne cessent de tomber amoureux, de se séparer et de se redonner une chance. Réussiront-ils enfin un jour à être heureux ? C'est beau, hein ?
Ouais. C'est vraiment le résumé de n'importe quelle comédie romantique.
C'est une rom-com, mais en version série. Voilà. J'aime bien les comédies romantiques, et il y en a de moins en moins en film. Alors bon, bah, je me suis dit, allez, let's go, je vais regarder cette comédie romantique en série. Chaque fois qu'on s'est aimé est une comédie romantique plutôt basique, avec des éléments scénaristiques atypiques qui créent des enjeux qu'on ne retrouverait pas normalement. Déjà, l'histoire tourne beaucoup autour de leur rencontre, mais quelques heures après qu'ils se soient rencontrés, ils ont été victimes d'un attentat. Donc, ce qui fait quand même une rencontre un peu spéciale. C'est un vrai attentat qui s'est déroulé à Madrid le 4 mars 2004. En fait, c'est un train, il me semble.
C'est le métro.
Ouais, le métro qui a explosé. Et du coup, ils étaient tous les deux dans cet endroit. Et ils ne sont pas décédés, mais voilà, ça crée quand même un lien plutôt fort. Cet événement crée un lien particulier entre eux et reste important dans le déroulement de l'histoire. Ça explique aussi pourquoi ils ont un mal fou à avancer dans leur vie et à passer à autre chose, parce qu'ils sont un peu toujours l'idée de nous, on a survécu alors qu'il y a des centaines de personnes qui sont décédées.
Le syndrome
du survivant.
Ouais, c'est ça. Il y a un triangle amoureux présent tout au long de la série qui devient un peu un carré à un moment. C'est étrange, mais pourquoi pas?
Un carré amoureux.
Un carré amoureux.
Un carré ou un losange d'ailleurs.
Je sais pas, il y a quatre.
Je crois que les losanges sont des carrés.
Oui, dans le. Ouais, tu fais juste. La série voyage dans le temps.
Ou l'inverse.
On passe de 2000. La série passe son temps à voyager dans le temps. On passe de 2004 à 2022, alternant les moments où Irène et Julio sont ensemble et où ils sont pas ensemble. Clairement, leur vie est de couple est plus que compliquée. Du coup, en fait, tu fais des petits sauts. Tu sais pas trop où est-ce que t'es dans la temporalité à chaque fois.
Ah oui, ils voyagent pas dans le temps littéralement.
Non, non, c'est nous qui voyageons dans le temps, les spectateurs.
Okay.
Comme si tous ces éléments ne suffisaient pas, l'histoire se déroule principalement dans l'univers du cinéma. Irène rêve de devenir une réalisatrice et Julio devient acteur et leur petite bande d'amis lévite autour d'eux. Ouais, donc plus, il y a les attentats, il y a leur roman, ça se passe dans le cinéma, donc ça parle également du monde du cinéma. C'est wow, c'est dense. C'est une série plutôt plaisante. Je l'ai regardée en français et j'ai pas trouvé le doublage incroyable. Vraiment, j'étais en mode, c'est vraiment de pas
doublé
bien.
En espagnol.
Mais j'aurais peut-être dû, hein, parce que clairement, ça m'a un peu dérangé. Le couple au centre de l'histoire fonctionne bien. La série est plaisante. C'est un bon divertissement et je prendrai plaisir à regarder la suite s'il y en a une. Normalement, oui, ça finit sur un gros « qui va-t-elle choisir ?» et on n'a pas de réponse. Donc typiquement, ça se finit vraiment sur le truc genre « elle toque une porte hein, », on en est là.
Le 14 février 2024.
Qui y aura derrière la porte ? On ne sait pas.
Je vais vous parler d'une série française qui est dispo sur France.tv. Ça s'appelle « Stalk ». J'ai regardé les deux saisons qui sont sorties. C'est à chaque fois 10 épisodes de 20 minutes. C'était sorti en mars 2020, puis en octobre 2021. Ça parle de Lucas, alias Lux, qui a 18 ans, qui est un geek surdoué du code et qui se fait humilier par d'autres étudiants à peine arrivé dans sa prestigieuse école d'ingénieurs. Pour se venger, il va utiliser un de ses talents, stalker, à savoir pénétrer leur téléphone et ordi, y compris celui d'Alma, objet de tous ses fantasmes. Lux devient celui qu'il a toujours rêvé d'être avant qu'il ne soit pris à son propre jeu.
Ouais.
Et ben moi, j'ai beaucoup aimé cette série. C'est une série qui parle de hacking. Alors, ça code dans tous les sens. Ça fait des bruits de clavier partout, tout le temps. Et de ce point de vue-là, la série, elle est vraiment très bien faite parce que tout semble réel, loin des séries américaines où on se rend bien compte que c'est que du fake. Y a un autre petit point intéressant dans la mise en scène qui rend l'ensemble très réel aussi, mais qui est à saluer parce que c'est une contrainte technique. Les acteurs et actrices utilisent vraiment des smartphones. C'est pas, un écran bleu ouvert qui est sur l'iPhone et après on incruste des trucs dedans parce qu'à chaque fois l'effet spécial il est pas beau. Et donc là à chaque fois voilà, c'est vraiment des manipulations de téléphone, donc ça c'est bien. De manière générale, la mise en scène, elle est de toute façon particulièrement soignée, surtout la lumière. Et pour une série avec un petit budget, bah, c'est agréable de voir que tout est appliqué. Ça sensibilise aussi sur notre utilisation à Internet. Ça prouve que les datas, c'est dangereux. Ça parle aussi de cyberharcèlement. Et c'est là que j'en viens avec la comparaison avec You, parce qu'elle est évidente, parce qu'on suit un perso principal qui stalke des gens et surtout qui a un love interest. enfin qui stocke surtout un love interest, mais c'est vraiment moins cringe et surtout moins caricatural, déjà parce que Lucas il se fait prendre souvent parce qu'il est pas très doué, enfin il est très doué dans le code mais il prend trop peu de précautions pour pas se faire, et puis dans la vraie vie je pense qu'on le grillerait très vite parce que il est chelou parce qu'il a pas l'air innocent en fait. Et surtout parce qu'il doit régulièrement assumer ses actes et parce que la série a de réelles conséquences. Et surtout parce que Lucas n'est pas présenté comme un personnage sexy, comme Joe dans You. C'est le protagoniste, mais c'est pas une bonne personne. Et ça, la série, elle le répète assez souvent. Donc c'est plutôt beaucoup plus sain. Toutefois, la saison 2 est tombée dans le piège de la surenchère où les enjeux dépassent tout le monde. Et on parle de hacker des crypto-monnaies. On parle plus de juste stalker la fac, c'est genre on va stalker toute la région. Donc c'est un peu trop peu crédible aussi. Et même les séances de hacking, elles sont moins crédibles. Et ça se résume dans la saison 2 à montrer des gens qui tapent très 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 vite sur leur clavier sans qu'on nous explique ce qui se passe au final. Mais pour conclure, bah, c'est une série qui est très bonne, qui est très addictive, qui se regarde très vite. Et c'est le service public, et c'est gratuit, et c'est très bien.
Et c'est un format assez court, c'est marrant.
Oui, oui. Mais l'histoire, elle tient la route, on n'a pas l'impression que ça va trop vite par rapport au format.
Ah oui.
Voilou.
Loulou.
Eh bien, t'as dit Loulou, tu gardes la parole.
On continue avec Prairie Ridge, la saison 1, qui comptait 8 épisodes de 28 minutes. C'est sorti le 2 février 2023 sur Netflix. 4 adolescents tentent de conjurer une malédiction émanant d'une vieille boîte qui a plongé leur vie dans la tourmente. La tourmente. Moi, j'aurais dit le tourment, mais pourquoi pas.
Ça se dit aussi, hein, oui.
Alors, Prairie Ridge est, comme vous l'aurez deviné, le spin-off de On My Block,
pas... qui se passe... Oh, pardon, mais on n'a pas du tout deviné.
Zéro chance, déjà,
qui se
pas
passe
le
dans la ville de Prairie Ridge. On suit une nouvelle bande de 4 potes, 3 filles et un mec. 2 de ces filles sont sœurs. Le lien entre les deux séries se fait grâce à la famille Martinez, les parents de Rudy, et la famille de Jamal également. La série fonctionne bien, même si on a parfois l'impression que c'est un On My Block un peu moins bien. C'est dommage. J'ai aimé les thématiques abordées dans cette saison, la maladie, l'amitié, mais j'ai surtout beaucoup aimé la relation entre Demi et Cameron. Ils sont meilleurs amis, et enfin, en gros, c'est Demi, c'est une fille, et Cam, c'est un garçon. Ils sont meilleurs amis, et en même temps, ils crushent un peu l'un sur l'autre. Leur relation crée des dialogues incroyables et nous rappelle d'éviter de dire n'importe quoi sous peine de blesser les autres. La série se regarde bien, j'ai pas vu venir certains trucs, et le final donne évidemment envie de regarder la suite.
Mais c'est encore un truc... Attends, il tente de conjurer une malédiction. C'est marrant, ton résumé parle pas du tout de trucs fantastiques.
Parce qu'en fait, c'est vrai, compliqué. Il y en a un petit peu... En fait, c'est vraiment dans le même truc que On My Block. C'est t'as des bandes d'amis qui trouvent un objet, ils pensent qu'il est maudit, du coup ils vont eux essayer d'enlever la malédiction, mais en fait c'est pas le sujet principal. C'est tu suis leur famille, leur vie. Dans On My Block, c'était pas une malédiction, c'est juste qu'ils essayaient de trouver un trésor, okay. Tu vois, et ils l'ont trouvé au final.
Ça marche.
Et okay. Tu suivais leur vie quand même autour. Vous vous rappelez pas, c'était la série où quand ils entendaient un coup de pistolet, ils savaient quel calibre et quel pistolet était utilisé.
Mais si, mais je me souvenais pas que c'était un truc fantastique.
C'est pas, enfin ça, c'est complexe.
Il y a quand même des malédictions.
Reste pas bloqué sur la malédiction, vraiment pas.
Alors on va enchaîner avec une autre série, c'est Star Wars The Bad Batch. La saison 2 qui compte 16 épisodes de 25 minutes, ça avait commencé le 4 janvier, ça s'est terminé le 29 mars 2023.
C'était long, 23.
Et c'est évidemment sur Disney+. Mais c'est vrai que 16 semaines, du coup, c'est très long. Mmh. Ça parle toujours de l'escouade Bad Batch, une troupe d'élite de clones expérimentaux génétiquement différentes de ceux constituant la grande armée de la République, qui trouve ses marques dans une galaxie en pleine transformation à l'issue de la guerre des clones. Si vous connaissez pas Star Wars, vous n'avez rien compris.
J'ai rien compris.
À ce résumé. Eh bien, rien de nouveau sous le soleil. J'ai décidé de faire des expressions de papa maintenant. Ça ressemble à The Clone Wars et à la saison 1 de The Bad Batch. Il y a des épisodes très prenants, il y a des épisodes filler assez anecdotiques. Par contre, je suis toujours surpris par la capacité de cette série, comme l'était déjà The Clone Wars, à réussir à prendre une posture dramatique soudaine. D'un coup, c'est super triste.
C'est comme dans My Hero Academia.
Oui, peut-être. C'est pas révolutionnaire, mais c'est super intéressant quand on veut enrichir l'univers Star Wars. Personnellement, la période de transition entre la prélogie et la trilogie, c'est ma période préférée dans cet univers, donc je suis un gros client. D'autant plus que The Bad Batch aborde un aspect presque philosophique concernant le sort des clones à l'issue d'une guerre qu'ils étaient condamnés à perdre, donc déjà ça c'était un peu fou, et leur place dans la galaxie quand le monde n'a plus besoin d'eux. Et c'est même pas loin de parler des soldats états-uniens après la guerre du Vietnam. Mmh. Et donc c'est plutôt cool dans une série d'animation d'aborder ces sujets de société et historique comme ça.
C'est vrai. Et je me permets, il y a des épisodes fillers, mais en fait même les fillers ils sont bien quoi.
Ah oui, ils sont bien.
Parce que je me souviens que je me suis arrêté sur un filler où ils atterrissent sur une planète dont on n'a rien à foutre, où il y a un espèce de gros... comment ça s'appelle ? Un espèce de très très gros vaisseau qui ressemble à un grand cheval. Et il est très bien cet épisode. Il est ultra bien fait. Oui, c'est pas vraiment un cheval. C'est un cheval qui tire des lasers et qui va détruire une planète entière. Waouh. Ouais.
C'est une robot unicorne attaque.
Ah bah oui, flûte.
C'est une licorne.
Je confonds tout.
C'était vraiment une licorne. J'ai dit que c'était une licorne.
Vraiment totalement confondu. Bah, désolé. Du coup. Mais ouais, non. Même bon. Les fillers sont bien. C'est vraiment c'est chouette, vrai. The Bad Batch.
On vous laisse enchaîner.
The Peripheral, les périphériques, les mondes de Flynn.
Le nom français.
Moi je l'avais pas mis. Hein.
Le nom français est
c'est
nul.
Toi qui l'as rajouté.
J'ai rajouté le lait. Mais.
Les périphériques.
On va rester sur The Peripheral, c'est beaucoup mieux. La saison 1, il y a 8 épisodes de 60 minutes. Ça a commencé, c'est sorti le 20 octobre 2022, donc c'est l'année dernière. Et c'est dispo sur Prime Video. Mathilde aussi, elle l'a vu. Le résumé, Flynn Fisher, une femme dont la famille s'effondre et qui tente d'en recoller les morceaux dans une zone reculée de l'Amérique du futur. Oh putain, je joue cette phrase. Pardon, mais attends.
C'est pas mon résumé.
Oui, mais... Bon bref, Flynn est intelligente, ambitieuse et condamnée. Elle n'a pas d'avenir jusqu'à ce que l'avenir l'appelle.
Condamnée ?
C'est condamnée. Vraiment le pire résumé.
Elle est condamnée à quoi ?
Mais j'en sais rien, moi.
Jusqu'à ce que l'avenir l'appelle.
Bon, en fait, c'est dans un futur dystopique, mais ouais. Assez proche.
Oui, c'est ça que j'ai bien aimé.
Ouais.
Genre, ils ont des vélos électriques trop cool, je veux le même. Mais ils sont quand même en vélo électrique, ils sont pas en vélo volant, quoi.
Ouais, c'est parce qu'il n'y a plus de gasoil.
Ah.
Non, c'est pas... oui, en fait, du coup, ils sont dans un futur dystopique qui est assez badant, mais qui n'est pas non plus la fin du monde. Et je sais pas à quel point est-ce qu'on raconte parce que ça va spoiler pas mal de trucs et ça serait assez dommage parce que
moi, j'ai
c'est
pas,
vraiment une série
j'ai pas
qui se découvre épisode par épisode.
J'ai pas écrit de trucs sur la série, j'ai écrit on retrouve la patte visuelle de Westworld. Enfin, moi je trouve.
Ouais.
C'est le même créateur. Hein.
Oui. Oui.
Créatrice, désolée. Les décors et la direction artistique sont vraiment. Trop cool. Moi ça c'est m'a vrai. Trop plu. La ville de
bah,
Londres
comme dans Westworld,
en 2099. J'adore ces grandes statues de déesses et de dieux grecs. C'était trop ma période. En plus, j'ai lu le chant d'Achille il y a deux semaines.
Ah, c'est pour ça que t'as bien aimé.
Et je cherche là d'autres trucs sur la mythologie à lire. C'est trop mon kiff. Cette série, c'est un peu un mixte entre Ready Player One et Westworld avec du voyage dans le temps, enfin, de l'envoi de données dans le temps. Lol.
T'as spoilé déjà.
Bah non, il voyage dans le temps. Mais
en fait, on le sait pas. Moi, le premier épisode, je suis pas convaincu.
Tu te rends compte. Bon. Je trouve que l'histoire fonctionne bien, mais c'était pas vraiment étonnant vu qu'en fait, c'est un récit. Enfin, en gros, la série est inspirée du livre de William Gibson,
fondateur du cyberpunk.
Paru en 2014. Oui. Incroyable, une personne très
ouais,
importante.
Littéralement. C'est lui.
Ah oui!
C'est un livre à lui qui a vraiment créé le concept.
Je pensais que vous étiez en train de dire que le cyberpunk est inventé en 2014.
Ah oui.
Non!
Okay. Non, c'est ce monsieur-là qui l'a inventé
oui,
il y a longtemps.
Oui,
c'est ça. Oui, William Gibson, il a 75 ans maintenant.
Ouais. Par contre, je trouve que c'est un peu comme dans Westworld. Il faut vraiment être attentif quand tu regardes la série parce que si t'en perds quelques morceaux, des fois, t'es un petit peu perdu, quoi.
Oui, et bah, c'est peut-être bon signe. Bah, je sais pas, s'il y a des séries où tu peux rater 10 minutes et revenir et tu t'en fous,
mais
c'est
j'aime bien
pas
ce genre de série. C'est un peu mes séries, tu sais, que je mets et que je fais. Ouais, voilà.
Ne serait-ce que tu pars 10 minutes.
Il s'est passé des choses, mais tout le monde s'en fout.
Ou Vampire Diaries, ou tu vois, bon, il y a peut-être trois persos qui sont morts entre temps, mais c'est pas ouf important non plus.
Bah non, on l'a pas trop.
Non, là, franchement, il faut que tu restes attentif.
C'est vrai.
Tu fais que ça. Et par contre, j'ai pas du tout aimé le générique de cette série. Voilà. Bon coup de gueule. On a été à une expo là, sur les génériques et j'ai skippé. Voilà,
vous avez été une expo sur le générique.
À Cérimania, il y avait l'expo du festival, c'était sur les génériques.
C'était ne pas passer le générique. Et là, vraiment, les gars, désolé, je l'ai passé à chaque fois. À part les premières fois où je l'ai regardé, je fais mais c'est tellement long.
C'est vrai qu'il est
Pourquoi
long.
Pourquoi ce générique est tellement long
ouais. Je pense que je l'ai passé aussi.
Horrible. Déjà, avec le premier épisode, il faisait genre une heure et demie au moins, il était méga long. Alors, en plus, avec le générique, c'était un enfer.
Il a pas du tout envie de regarder cette série, alors qu'elle est trop bien.
Mais si, ça pourrait me plaire.
Moi, je crois que j'ai mis à peu près la même chose que toi. J'ai dit que c'était super, qu'en plus, c'était un peu ma cam, parce que j'aime bien la SF. Il y a une super intrigue.
Ça va plus vite que Westworld.
Oui,
c'était
le rythme
bon.
Est un peu plus énergique. Il y a 10 épisodes, du coup, faut que ça aille plus vite. Flynn a un frère, et j'aime bien, ils ont un lien où on apprend au fur et à mesure, alors pas entre Flynn et son frère, mais Flynn, son frère, a toute une équipe avec lui, et eux ont un lien.
Oui.
Et c'est assez stylé comment ça fonctionne et tout.
Et en même temps, c'est un peu flippant.
Oui, mais c'est
les deux. De pourquoi ils ont ça. Enfin, c'est ça que je veux dire.
C'est vraiment de rien spoiler du tout. Et voilà, je trouve que chacun des persos est bien. Ils ont tous eu une intrigue et des volontés et tout. C'est vraiment très détaillé, c'est chouette. Alors que pour le coup, c'est quand même relativement court. Ah ouais, c'est même que 8 épisodes, c'est ouf.
Est-ce que c'est moins prétentieux que Westworld ?
Oui.
Ah, il y a des scènes de baston, elles sont bien.
Scènes de baston sont bien. Et puisque ça raconte... au final, c'est une série plutôt... elle est dystopique, mais elle est encore... Enfin, c'est encore le genre de série dystopique en mode... les humains, on détruise tout. On est Dieu, ils essaient de se prendre pour Dieu. C'est pour ça que ça part en cacahuète. On a tout détruit. Les gens veulent que de l'argent. Enfin, tu vois, c'est... On est dans un mood comme ça, donc en gros, les valeurs qui en ressortent sont positives, j'irais.
Oui, c'est vrai. C'est Flynn qui essaie de sauver sa maman, quoi. Du coup, c'est plutôt positif.
Et on va terminer les séries avec Mathilde.
Oui, j'avais oublié, j'ai regardé Buddy Daddies, saison 1, qui compte 12 épisodes de 24 minutes. C'est sorti le 7 janvier 2023. Mais la diffusion a pris très longtemps et je crois que les derniers épisodes sont sortis il y a quelques semaines. C'est dispo sur Crunchyroll et la série est terminée en 12 épisodes. L'histoire suit Kazuki, un entrepreneur coordinateur criminel qui vit avec son meilleur ami Ray, un assassin professionnel qui a été élevé dès l'enfance pour devenir un tueur à gages. Kazuki est extraverti et aime le jeu et les femmes, tandis que Ray est un homme peu loquace qui passe son temps libre à jouer aux jeux vidéo. Un jour, les deux compères se retrouvent à s'occuper de Miri, une petite fille de 4 ans dont le père est un chef de la mafia. Après que Miri se soit accidentellement égarée dans une fusillade dans un hôtel alors qu'elle cherchait son père. Oui, c'était ça le résumé.
Ça, c'était le résumé.
Il est aussi long que ton avis.
C'est ça. Buddy Daddies vous fera sûrement penser à Spy X Family, car on y retrouve une famille atypique et vivant des aventures déjantées, un peu, sauf que dans Spy X Family, ils font ça pour le bien, parce que Lod, il est quand même agent secret, tu vois.
C'est vrai.
Alors que là, Ray et Kazuki, ils sont des criminels.
La mère d'Anya dans Spy Family, elle continue de travailler comme tu es à gage et ça nous est complètement égal.
Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est là où je dirais que Spy X Family, c'est moins violent. Enfin, tu vois, il y a toutes ces thématiques, mais pour l'instant, elles sont sous-jacentes. On essaie de pas trop en parler. Même quand on voit Yor tuer des gens, enfin, c'est pas vraiment violent, c'est quand même très... Je sais pas comment expliquer. C'est avec du recul parce que je pense qu'ils savent qu'il y a un public enfant qui regarde. Là, on est sur des choses plus violentes et les propos sont plus durs. Par exemple, Rei et Kazuki s'occupent de Miri, mais ils s'occupent de Miri parce que en fait, ils ont tué son père devant elle.
Ah.
Mais elle a pas vu la scène. Mais en gros, elle était en train de courir vers Kazuki et il y a Rei derrière qui a buté son père qui était un chef de mafia. Et c'est que des choses comme ça. Et ça, ils te le montrent à l'écran, donc voilà. Sinon, la série est vraiment bien. Il y a des épisodes où on les voit en famille et c'est trop mignon. Puis hop, après, on passe à un épisode où ils doivent faire des missions de criminels. En tout cas, cette famille est vraiment attachante et j'ai adoré les suivre. Ce qui est vraiment pas mal, c'est que la série est terminée, donc on peut suivre vraiment toute cette histoire en une saison de 12 épisodes. Et je trouve ça plutôt cool.
Super, merci beaucoup.
Donc si vous avez aimé Spy X Family, regardez ça.
Ok.
C'était trop bien.
Le message est passé. On va enchaîner sans plus attendre. J'ai déjà dit tout à l'heure sans plus attendre.
Plus t'attendre.
Avec les films du mois de mars. Je vais commencer avec un film sorti en janvier 2023 sur Prime Video. Il s'agit de BDE qui dure 1h45. C'est réalisé par Michael Youn avec Michael Youn, Elena Noguera, Lucien Jean-Baptiste et Vincent Dezania. Ça parle de quatre amis pour la vie qui se sont rencontrés dans les années 2000 lorsqu'ils étaient à la présidence du BDE du Nantes Institute of Business. 20 ans plus tard, ils se sont assagis et mènent des vies bien rangées. Sauf une fois par an, quand ils se retrouvent pour refaire la fête comme avant. Cette année, direction Val Thorens pour un week-end bouleversé par le spring break pendant le sport d'hiver, donc au mois de mars, évidemment, quand c'est l'hiver. Où il y a des jeunes étudiants venant de la même école. Eh bien, ce film, c'est une catastrophe.
J'envisageais de le regarder.
Et pas, pas moi.
Vraiment, ne perds pas ton temps. Il n'y a pas grand-chose à garder dans ce film. Le montage est joli, éventuellement. Non, la montagne, pas le montage. La montagne est jolie.
Il y a d'autres films de montagne.
Éventuellement, oui. Sinon, tout est caricatural. Les personnages sont caricaturaux. Les jeux des acteurs et des actrices sont caricaturaux. La direction, toute la direction est caricaturale, le scénario est caricatural, les jeunes sont caricaturaux et la montagne est caricaturale.
Et c'est comme ça qu'on accorde cet adjectif.
Oui.
Oui.
C'est une copie carrément ratée des films avec Philippe Lachaud, qui sont déjà pas réputés pour leur finesse. Mais là, il y a une grosse dose en plus des 11 commandements. Sauf que c'est pas drôle une seule seconde. j'ai dû souffler du nez une ou deux fois, pas plus.
Peut-être pas le public.
Peut-être. Mais ça marche pas en tout cas parce que il essaye de renouer avec les gros délires du Morning Live et des 11 commandements. Sauf que dedans tout était vrai. Il faisait vraiment des bêtises. Alors que dans B2, tout est faux. Tout est encadré quand on les voit faire un peu nimp. Il y a un truc qui est vrai. C'est les animaux sauvages dans le film. Et ça me fait chier. Parce que j'aime pas quand on joue avec des animaux sauvages. Alors, laissez les animaux tranquilles, s'il vous plaît. En général, j'aime bien Michael Youn. J'adore Fatal. C'est un film qui a été très important à un moment de ma vie. Mais là, je suis obligé de dire que c'est pas bien du tout. Et l'écriture des jeunes dans ce film... C'est terrible, c'est pénible même. Il n'y a aucun de ces jeunes qui existe dans la vraie vie. Sauf dans l'esprit de Michael Youn, qui n'est plus si jeune et qui fantasme une vision dépassée et vulgaire des jeunes d'aujourd'hui. Et de la même manière, prendre des visages d'internet au casting parce que ça fait jeune, c'est pas une bonne idée, surtout quand ces gens ne savent pas jouer la comédie. C'est horrible.
Il y a d'autres films.
ça continue de faire cette erreur. Après, c'est pas un film qui est boomer, bien au contraire. Et même pendant que Michael Youn faisait sa promo, je l'ai vu parler à la télé. Et en fait, il est vraiment pas du tout boomer. J'ai une parenthèse, je m'égare, mais il a une vision très intéressante de l'humour en 2023 où il dit que c'est pas du tout, c'était pas mieux avant et tout. Et en fait, ce film, il est même pas énervant. Il est juste, parce qu'il est même pas clivant. C'est juste qu'il est pas bon. À tous les niveaux.
Ouais, c'est juste pas très drôle, quoi.
Ouais, voilà. C'est ça.
Les enfants du temps. C'est sorti le 8 janvier 2020. Ça dure 1h52. C'est dispo sur Canal+. Et c'est un film réalisé par Makoto Shinkai.
C'est sur Canal.
Oui, je crois. Et j'ai eu envie de le voir parce que, bien évidemment, il y a son nouveau film Suzume qui sort le 12 avril. Et donc, je n'avais pas vu celui-ci et j'ai eu envie de le rattraper. Jeune lycéen, Odaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Odaka est dépêché pour enquêter sur l'existence de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il change soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Ina. Eh ben, c'est un très beau film, mais je vous conseille de le regarder si vous ne l'avez pas vu. Je réfléchis et je me demande si j'ai préféré Your Name ou celui-là.
Ah oui, quand même.
J'ai préféré Your Name.
Ah bon, on va pas se mentir. Rassurée.
La musique est incroyable en Your Name. Là aussi, la musique est très présente et vraiment bien. Mais l'histoire m'a un peu moins touchée, même si elle est quand même très très bien. On parle du coup de ce jeune, on suit ce jeune Odaka qui va rencontrer Ina, qui est une prêtresse du soleil, et qui, grâce à son don, va pouvoir venir mettre du soleil dans votre vie à certains moments quand vous le souhaitez, alors que la pluie dévaste Tokyo. Depuis des jours, et tellement que Tokyo va être ravagé par l'eau et va changer de visage, si je peux dire. Mmh. Et non, c'est un très beau film, et visuellement, c'est toujours incroyable. Et je pense que celui-ci est sorti en 2020, donc 3 ans plus tard, on va avoir Suzume, et je pense que ça va être encore au-dessus. J'ai trop hâte.
Par contre, c'est sur Canal, mais que si tu repayes pour le choper en VOD, donc c'est pas vraiment sur la plateforme MyCanal.
Vous pouvez toujours aller emprunter le DVD à la bibliothèque, comme j'ai fait. C'est souvent ouvert.
Les oreilles.
Je vais enchaîner avec un film qui est sur MyCanal, j'en suis sûr. C'est Incroyable mais vrai, qui était sorti en juin 2022, qui dure 1h14. C'est réalisé par Quentin Dupieux avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel et Anaïs Demoustier. Ah, mais
oui. Est-ce que c'est le film qui a cette affiche incroyable où il y a les 4 têtes sur un fond noir?
Oui.
Ça n'a aucun sens.
Oui. Ça parle de Alain et Marie qui s'installent dans le pavillon de banlieue de leur rêve, mais l'agent immobilier les a prévenus. Ce qui se trouve au sous-sol risque bien de changer leur vie. C'est un film 100% Dupieux, vraiment, il n'y a pas de surprise. C'est sympa, c'est pas génial, mais c'est sympa. Il y a 2 intrigues dans le film. La première, c'est largement la meilleure, c'est que dans la cave, justement, dans le sous-sol, il y a un trou qui transporte de quelques... trappe et tout, c'est vraiment un trou. Transporte de quelques heures dans le futur chaque personne qui y pénètre. Tout en les faisant rajeunir de quelques jours.
Ah, c'est sympa, ça.
Oui. Et la seconde intrigue, qui est liée à la première, est un peu déstabilisante, c'est le pénis connecté de Benoît Magimel.
Quoi ? Alors, j'ai entendu pénis connecté, de qui ?
De Benoît Magimel.
Comme s'il y avait un lien entre les deux, alors que pas du tout.
Si, à la fin, je fais le lien. Mais pendant le film, je disais, pourquoi on nous parle du pénis connecté ? Je comprends pas.
Okay.
Et en fait, le principal défaut du film, c'est son rythme, parce qu'il dure 1h14, donc c'est très court. Et en fait, j'ai réussi à m'ennuyer.
Merde.
Et je pense que si c'était un format de court ou de moyen métrage, ça aurait été parfait. On aurait pu tout compresser et que ça soit vachement mieux. Surtout que l'histoire est géniale. Le trou dans la cave, ça marche ultra bien. Et toutes les sous-lectures autour de la question de la vieillesse, elles sont super intéressantes. Et justement, c'est là qu'on parle du pénis connecté.
Mais il est connecté à quoi, d'ailleurs ?
Ah, c'est un smartphone, en gros. La compagne de Benoît Magimel, où lui, tu vois, elle dit, paf, érection est là, érection.
Ok.
Et en fait, donc, c'est un film qui nous interroge justement là-dessus, sur la vieillesse, puisqu'il confronte le personnage de Benoît Magimel qui refuse de vieillir parce que du coup voilà, il a un zizi connecté et il sort qu'avec des jeunes femmes qui sont moitié moins jeunes que lui. Et il y a Léa Drucker qui rentre dans une boucle sans fin de rajeunissement grâce aux effets du magique du trou. Elle, dès qu'elle apprend qu'elle rajeunit, eh ben elle s'arrête jamais. Elle s'arrête jamais, elle s'arrête jamais, elle s'arrête jamais. Et donc, bah, Alain Chabat, il la voit plus. Et à chaque fois qu'il la revoit, parce que je crois que tu disparais 6 heures, un truc comme ça, tu reviens 6 heures dans le futur.
Et il se passe quoi pendant ce temps-là?
Rien. Bah, elle est pas là.
Ah, d'accord.
Elle rentre dans le trou, et puis dans le salon, t'as un trou du plafond avec une échelle, donc elle sort de là. Donc, de temps en temps, Alain Chabat, il voit sa femme sortir du plafond.
J'essaie de m'imaginer le film, et je me dis, mais c'est grotesque.
Ah ben, c'est du Dupieux, donc oui, il y a un côté grotesque. Et pendant ce temps, il y a Alain Chabat qui, lui, se laisse vieillir paisiblement. Donc, il y a un peu cette... Ça nous interroge là-dessus. Donc, c'est un film qui est très poétique et qui met en scène avec le ton habituel de Quentin Dupieux. Mais voilà, qui peine à assumer son format parce qu'il n'a pas assez de choses à raconter. Voilà. Et je vais enchaîner avec un autre film qui est sur MyCanal. Vraiment la chronologie des médias. La nouvelle chronologie des médias qui fait que les films MyCanal sortent très vite. Ça va me faire regarder plein de films. Mais sur MyCanal.
Vous avez MyCanal maintenant ?
Oui. Ah. Cette fois, c'est La Nuit du 12, sorti en juillet 2022, qui dure 1h54. C'est un film réalisé par Dominique Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Laners et Mouna Soualem. À Grenoble, Johan, officier de la police judiciaire, tente de récolter des indices qui lui permettraient d'avancer sur un crime aussi odieux que complexe. Au fil des interrogatoires, les pistes se multiplient et il semble perdre ses moyens face aux déclarations de l'entourage de la victime. C'est un film que j'avais raté l'année dernière au cinéma et qui a eu le César du meilleur film de l'année. Et il mérite vraiment son prix. Parce que c'est un film puissant, dur et réaliste. Il n'y a aucune esthétisation de l'enquête policière comme on pourrait l'imaginer dans un film de police. Et Dominique Moll réussit justement un joli coup. Par exemple, en ne rendant pas ennuyeux une planque de toute une nuit. Où vraiment, c'est juste deux personnes qui sont dans un camion et qui attendent. J'ai apprécié que la plupart des visages ne soient pas connus. C'est un film qui parle de beaucoup de sujets d'actualité, qui montre aussi la pertinence et la justesse de l'écriture, puisqu'on aborde les violences faites aux femmes, parce que le film parle d'un féminicide, les violences conjugales, les violences policières, le racisme, la misogynie au sein de la police, et la relation de la police envers les femmes victimes de violences. Et justement, c'est d'habitude, c'est Mathilde qui fait ça. Mais en fait, moi, il y a une citation qui m'a beaucoup, beaucoup touché dans le film. Je vous la cite. Vous trouvez pas ça bizarre que ce soit majoritairement les hommes qui commettent des crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre? Les hommes tuent, les hommes font la police. Un monde d'hommes.
Bouh, ça... les hommes.
Voilà.
Voilà.
Après, c'est pas un film anti-police, au contraire, puisque le plot de départ, c'est parler des enquêtes irrésolues qui hantent pour toujours certains et certaines policières. Donc le film essaye aussi de mettre en lumière et presque de rendre hommage à ce métier parfois difficile. Voilou.
Ça a l'air bien, mais un peu triste.
Oui.
C'est pas tant triste.
Quand même, le truc de départ a l'air un peu triste.
Ouais, mais parce qu'en fait, on n'a pas le temps de s'attacher à la victime. C'est plus choquant que triste, en fait.
C'est pas le départ.
Non. Okay.
Moi, j'ai entendu parler de quelqu'un qui brûlait et ça m'a rendu triste.
Bah, c'est comme ça que la victime est tuée, ouais.
C'est horrible. Horrible.
Il y a un petit côté zodiaque aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a un peu un côté zodiaque. Voilà. Du film. Zodiaque.
Zodiaque.
J'ai jamais dit autant zodiaque en 10 secondes dans ma vie.
On fasse du bateau.
Hein ?
Faut qu'on fasse du bat.
Ah. Ouais. On va enchaîner tout de suite avec les documentaires. J'ai regardé un documentaire sur France TV, c'est gratuit, c'est très bien. Ça s'appelle Mon boulot chez McDo, c'est sorti en juillet 2022.
Ah, ça dure
52 minutes. Et c'est créé, réalisé, tout ça, par Tom Cariou. Ça parle évidemment de McDo, où chaque année, des milliers de jeunes intègre la grande famille des employés de McDonald's, à tel point que l'enseigne revendique être le premier recruteur de France. Mais aujourd'hui, de nombreux et nombreuses salariés décrivent des conditions de travail de plus en plus difficiles. Et donc, que signifie vraiment travailler au sein du fast-food le plus connu du monde ? C'est pas moi qui parle, c'est Tom Cariou qui dit « J'ai rencontré ces jeunes et recueilli leurs témoignages. Équipé d'une caméra cachée, je signe à mon tour un CDI chez McDo pour comprendre ce qui se passe de l'autre côté du comptoir. »
Oh mon Dieu, horrible.
Oui, c'est vrai. C'est un bon résumé.
Tu spoil.
C'est...
Ah, non, mais moi, t'imagines devoir aller signer un CDI chez McDo pour faire un reportage. Oh là là.
C'est ça, quand c'est la meilleure des situations pour le coup. C'est que tu le fais pas parce que t'as besoin de faire ça pour gagner ta vie. Donc je pense que
ouais,
ça va.
Ouais, mais motivé.
Ouais, mais ouais.
Félicitations.
Mais,
oui,
non, mais après, l'acte est quand même bien. Mais...
Eh ben, c'est un très bon documentaire en immersion. Cette fois, un journaliste se penche sur McDo, pas pour parler de malbouffe, mais pour mettre un coup de projecteur sur les employés, parce qu'on en parle assez peu. Et à l'heure où notre société questionne les conditions de travail, bah, ce document il résonne particulièrement. On se doutait que les conditions de travail à McDo c'était particulièrement compliqué, mais en fait le documentaire nous apprend que c'est encore pire que ça. Parce que bah, ça parle de conditions horribles, de pression, de maboule. Et en plus, on rajoute à ça bah, des cas de harcèlement sexuel qui sont carrément étouffés par McDonald's France.
Ah oui.
Donc c'est charmant. Et puis, pour finir, maintenant que j'ai vu le documentaire, plus jamais je râlerai dans un fast-food. Et vraiment, je...
Même au Burger King.
Même au Burger King qui met une heure à donner des burgers, je ne leur râlerai plus dessus parce que c'est pas de leur faute. C'est... Ils ont qu'à être plus nombreux. Parce que, voilà, bref. On peut enchaîner maintenant avec le sujet du mois. On va écouter la bande-annonce.
Kerrigan a plongé ce pays dans les ténèbres. Il faut que je l'anéantisse. Pour de bon.
Tu es Alina Starkov.
Tu vas nous aider à détruire le Fold ?
Tu n'y arriveras pas avec un seul amplificateur.
Il nous faut la puissance des 3 amplificateurs.
Nous devons trouver l'oiseau de feu et le flagelleur des mers. Emparez-vous de ce pouvoir. Terminez ce que vous avez commencé.
T'es avec moi ?
Toujours. De l'aventure ? Du danger ? Là, on parle la même langue.
Dans quel cauchemar on s'est encore fourré ?
Je ne savais pas que vous étiez patriote.
Meurs, on n'aura pas notre argent.
Je t'ai promis que nous allions changer le monde.
Non, ça n'arrivera jamais. Je détruirai la seule chose qu'il vous reste encore.
C'est de la magie. Vous ne saurez pas quel sera le prix à payer avant qu'il ne soit trop tard.
Êtes-vous bien certaine de vouloir sacrifier ce qui a le plus de valeur à vos yeux ?
Il s'agit évidemment de Shadow and Bone, la saga Grisha, saison 2. C'était 8 épisodes de 60 minutes. C'était sorti le 16 mars 2023 sur Netflix. C'est toujours créé par Eric Heisserer. C'est l'adaptation toujours de la trilogie littéraire Grisha et de la duologie littéraire Six of Crows de Les Bardugo. C'est avec plein de gens qui s'appellent Jesse Maley, Archie Renaud, Patrick Gibson, Ben Barnes, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Yang, Daniel Galligan et Jack Wolf.
Ils sont vraiment beaucoup. Hein, quand
c'est bah, autant de gens dans la série que dans le casting. Et encore, j'en ai enlevé plein. Qui veut commencer à parler? Ah, non, je vais commencer.
Bah, attendez, vous avez même pas donné de résumé.
Ah oui, c'est vrai, tiens.
Après la saison 1, arrive la saison 2. Alina a des pouvoirs, elle en veut plus.
Non, c'est pas ça.
Si.
Non.
Alina a des pouvoirs, elle en veut plus pour ne pas se faire mettre en couple forcé par...
Mais je crois que c'est pas ça l'histoire.
Le forceur qui a 1000 ans.
Le forceur.
Bah, c'est un peu un forceur.
100%
forcé. Je suis halluciné.
Ah oui, carrément. Tu hallucines, quoi. Tu peux arrêter les cookies, alors.
Enlève les
cookies.
J'allais
dire de payer, du coup, mais bon, bah, tant pis.
Alors, des forces maléfiques conspirent contre une jeune soldate armée d'un pouvoir magique qui pourrait unir son monde. Alina doit sauver le monde en détruisant
le monde.
Le Fold créé par le Darkline. Jusqu'à maintenant, le Darkline... Ils ont cru qu'il était mort. Et Alina et Mal se sont enfuis. Et là, Alina veut avoir un deuxième amplificateur. Il faut donc qu'il parte à la recherche.
T'as loupé le fait que le Darkling, du coup, n'était pas mort, finalement.
Bah, attends. Mais c'est un résumé. Et il part donc à la recherche du deuxième amplificateur d'Alina.
Mais non, ils partent à la recherche du deuxième.
Oui, du deuxième amplificateur d'Alina. Et à côté de ça, leurs amis de Ketterdam sont retournés à Ketterdam.
Eh oui.
Voilà.
Ils veulent récupérer leur barre.
Voilà. Eh bien, je vais commencer en disant que laborieux est sans doute le mot qui résume bien cette saison. Parce que le scénario est laborieux. Le découpage entre l'intrigue d'Alina et l'intrigue des corbeaux, elle n'est pas fluide. C'est très superficiel. J'ai vraiment l'impression d'assister à deux séries différentes en même temps. D'un côté, on a littéralement l'enjeu de tout le monde, du monde entier. Et de l'autre, eh ben, y a une mini-intrigue mafieuse qui semble pas être concernée par le fait que le monde peut sombrer dans les ténèbres.
Bah non.
Voilà, bah non.
Ils sont pas au courant.
Bah, ils sont sur une île.
Ah bah d'accord. Bah, les îles, ça protège.
J'en sais rien.
Tout ça nuit à la qualité du montage, parce que souvent on jongle entre deux ambiances totalement différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'attachement au personnage, il est aussi difficile parce que, comme on suit deux histoires différentes, on n'a pas le temps de s'attacher à qui que ce soit. Et le pire étant pour moi la réalisation, parce que pour faire des bons plans avec des drones, bah, c'est facile et les gens y arrivent. Mais pour mettre de la tension et des enjeux dans les chorégraphies, dans la mise en scène, bah, c'est très 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 compliqué. Et la bataille finale est terrible. Elle est terrible de pas d'enjeux et de pas de tension. C'est des gens dans une douve qui se courent après
after
et qui
effect.
Se cachent derrière des panneaux.
Et des effets After Effects.
Et des effets After Effects qui, comme la vieille série, la Legacy tout pourri là, avec les vieux super-héros qu'on avait vus, Jupiter Legacy. Bah, en fait, c'est le même problème, c'est que quand tu dis pas à tes acteurs et actrices de faire des grands mouvements et de mettre de la tension, de l'enjeu dans leurs mouvements, bah, juste mettre des effets qui pètent à After Effects, ça
Alina
suffit pas.
Alina un peu quand même.
Alina, c'est la seule, mais dans cette bataille finale...
Elle est pas là.
Il n'y a pas d'enjeu.
Bah quoi, c'est vrai, elle est pas là, écoute. Moi, je te dis la vérité.
Et puis, je vais juste dire le dernier épisode. qui est une catastrophe de narration.
Non mais vraiment, moi c'était... je parlais pendant l'épisode.
Toi tu le fais tout le temps.
Mais c'est pas possible.
T'attends pas les épisodes nuls hein, pour parler.
Non mais là j'arrêtais pas de te regarder.
C'est vraiment la série se finit au bout d'un quart d'heure sur une heure de ce dernier épisode. Après il y a 45 minutes de remplissage.
Ah bah dis donc.
Ça donne très envie, Damien.
Il fait beau aujourd'hui. Bah non.
Voilà.
Bon.
Vous pouvez cracher votre venin et votre valda sur...
Attends, moi je vais le faire. Parce que...
Oui, vas-y.
Moi, du coup, j'ai pas eu le temps de tout voir.
Ah bah, bravo.
Unfortunately.
For felicitations.
Merci. Mais j'ai quand même vu 4 ou 5 épisodes et vraiment, j'ai pas compris. Parce que la saison 1, j'en attendais pas grand-chose parce que je connaissais pas l'histoire et tout, mais j'avais été bien accroché. Et là, l'inverse.
Bah oui.
Du coup, j'en attendais pas mal parce que j'avais bien aimé. Ah. Et en fait, bah, très bof. Globalement, pour les raisons que tu as citées avant. Moi, juste le truc de l'attachement qui est un peu moindre par le fait qu'on bascule d'une histoire à l'autre, bah, je suis d'accord. Mais pourtant, dans la saison 1, ça fonctionnait quand même. Donc,
c'était beaucoup plus fluide.
Bah oui.
Là, c'est très pâteau.
Ouais, il y a un vrai truc qui fait que ça marche pas, là. Et ouais, du coup, les intrigues sont pas très intéressantes et tellement grossières que c'est chiant. On comprend pas vraiment ce que veulent les gens. Genre, du coup, moi, le Darkling, bah, c'était pas clair hein, qu'il voulait être avec Alina. C'était pas clair du tout. Mais vraiment, si... tu lui enlèves ça. Pourtant, c'est vrai qu'effectivement, il a pas de but spécial.
Non, il veut juste être avec la personne...
Oui, en fait, c'est juste un amoureux transi.
Mais... Bah, c'est un amoureux transi qui a toujours été exclu. Donc lui, il veut juste trouver quelqu'un comme lui parce que ça fait des années qu'il est tout seul et que personne ne l'aime.
C'est dommage qu'elle soit mal faite. Et sinon, il y a des trucs pas mal dans la réalisation. J'aime bien, moi, les effets des pouvoirs avec des petites lumières. En vrai, moi, je trouve
ça
sympa.
Non, mais les effets visuels sont beaux. C'est juste que c'est très mal chorégraphié.
Ah oui, bah par contre, les chorégraphies... Bah, encore, il y a des combats à Ketterdam qui sont sympas de temps en temps.
Oui, c'est vrai qu'à Koyakaz, c'est pas mal.
J'espère comme aussi, c'est des pistolets, c'est facile à faire.
C'est ça que je pensais aussi, ouais.
Mais par contre, les effets spéciaux sont pas beaux. Le bateau qui vole, il est très, 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 très en 3D.
Le bateau qui vole.
Alors, ça existe aussi dans les livres, le bateau qui vole.
Oui, mais dans les livres, tu le fais dans ta tête. Je le voyais pas comme ça dans ma tête. C'est bien fait.
Dans ma tête, il était pas comme ça. C'était autre chose.
Le principe marche bien.
Oui.
Et du coup, ma conclusion, c'est que cette saison a très peu d'attrait.
D'après, oui.
Cette saison a très peu d'attrait comparé à la première. Et c'est dommage.
Ouais. Bah, je suis un peu d'accord avec tout ce que vous avez dit. La saison 1, enfin, moi de toute façon, le problème c'est que j'adore le Grishaverse. J'aime vraiment l'arc Bardugo. J'ai aimé Grisha. J'ai encore plus aimé Six of Crow. J'ai pas encore lu Kings of Scar que je dois lire bientôt. Et du coup, j'ai un attachement particulier à ces deux sagas que j'aime énormément et à ces personnages. Et pourtant, j'ai quand même détesté cette saison. Donc, fallait vraiment.
Comme quoi.
Ah non, en fait, j'ai vraiment
oui,
trouvé.
C'est pour ça que quand tu disais que t'allais être le plus dur.
Oui, parce que, en fait, le problème, c'est que souvent, quand on lit des livres, après, on n'aime pas les adaptations. Et c'était pas le cas pour la saison 1. Au contraire, la saison 1, j'avais félicité le truc. J'avais dit, ah, c'était une très bonne idée, parce que je comprends que juste en prenant Grisha, il n'y avait peut-être pas assez de contenu et de choses à raconter, et que c'est pour ça qu'ils ont pris aussi Six of Crow pour les mettre tous les deux. C'était une super bonne idée. Mais alors, soit tu t'éloignes direct des livres, enfin c'est un choix, tu dis, en fait c'est une adaptation libre, donc on ne suivra pas l'histoire des livres, et du coup on prend les personnages des trucs et on en fait quelque chose de nouveau, soit tu suis les livres, mais là en fait il y a un peu de fan service. Je pense qu'on veut satisfaire les fans des livres, donc on va suivre l'histoire. Et en même temps, bah, il y a ces personnages de Six of Crow, il faut bien en faire quelque chose. Donc on leur crée des intrigues et on leur crée des quêtes qui n'ont aucun sens. Et ça fait énormément de persos. Enfin, vraiment. Moi, j'étais trop contente de voir Willan, mais au final, Willan, on le voit 3 minutes sur tous les épisodes. 5 minutes, grand max.
Ils sont beaucoup.
Et en plus, il a vraiment pas des intrigues intéressantes. On balance des trucs genre Willan ne sait pas lire. Mais putain, dis-le pas si ça a pas de sens pour le scénario et que ça fait pas avancer et qu'il y a pas une vraie conversation là-dessus. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont balancés et on sait pas. Personne ne s'en sert. Où est le premier amplificateur d'Alina?
Ah, ça m'énerve.
On m'explique. Les boîtes serrent.
Il est rentré dans son corps.
Là, mais il dépassait.
Il a fusionné. Totalement.
Bah ça typiquement dans le bouquin
c'est
quelque
vrai
chose
que c'est bizarre que ça soit pas expliqué du tout
reste... Bah oui, c'est juste flemme maquillage quoi.
Au pire tu expliques, tu dis bah l'amplificateur c'est oui c'est incorporé au corps, genre ça. Tu trouves une excuse bidon, tu trouves quelque chose parce que là on se demande vraiment ce qui se passe et c'est que des petites choses comme ça. Donc bah moi j'étais méga déçue et vraiment par contre ils ont passé toute la série à suivre l'histoire de Grisha pour arriver à la fin et ne pas finir l'histoire comme dans la saga. Et du coup, ça fait un truc trop chelou. Enfin, moi, j'étais devant ma télé et j'avais l'impression de lire une fanfiction. J'étais genre...
Hein? C'était un peu ça.
Quoi?
Oui, ça faisait un peu fanfiction. Enfin, même j'ai pas lu le livre, mais ça se ressent, ça fait très artificiel tout ce qui se passe. Enfin, de toute façon, le dernier épisode est une catastrophe. Ça fait très très artificiel.
Le Darkline, qui est censé être un personnage très sombre et vraiment très important et très profond, devient un pantin complètement idiot qu'on tue tellement facilement. Nikolai, avec sa relation avec Alina, il n'y a aucun sens. Ils sont censés... Nikolai est censé avoir des sentiments pour Elena. Vous avez remarqué qu'il était vraiment amoureux d'elle à un moment donné, ce type ?
Non,
vite fait un peu.
Il a le pire costume de farce à trappe du monde. Son truc de corsaire du début.
Mais ça, pareil ! C'est ce que je disais tout à l'heure à Damien. Le truc, tu vois, dans le bouquin, il y a des trucs intelligents qu'elle a fait. En fait, typiquement, Nikolai, quand il est corsaire, il est façonné. Il y a des façonneuses, il y a des gens qui peuvent changer ton visage. Donc il est façonné, donc il a pas le même visage quand il est corsaire et quand il est le roi, le prince. Ce qui évite que les gens le reconnaissent, typiquement.
Ah bah oui. C'est vrai, ça.
C'est plutôt sympa, parce que c'est quand même le roi d'une nation. Donc là, lui mettre juste un costume de pirate.
Oui, mais une veste bleue, une veste verte.
Ouais. Et quand il est en mer, il a une barbe qui pousse de ouf et tout.
Arrêtez,
pas
arrêtez.
Non. Puis il a une jambe de bois.
Oui, c'est vrai. Et un gros perroquet.
Et un crochet.
Franchement. Et je trouve que même le duo Mal et Alina fonctionne pas ouf.
Ah si, moi je trouve ça va. Ouais, pour leur alchimie marche bien. J'y crois.
Ça
moi,
c'est un truc qui marche, donc on va pas l'enlever.
Bah oui, mais comme ils restent pas ensemble à la fin. Après, je comprends le libre arbitre. Est-ce qu'ils s'aimaient vraiment ou est-ce que c'était le destin? J'en sais rien. Vraiment, ça m'a blasé de ouf.
Mais la saison 3, elle va.
Elle va quoi, la saison 3? Tu sais ce qu'elle va faire? Elle va parler de Six of Crow, parce que là, on va avoir le truc de pourquoi tout le monde prend de la drogue et a des super pouvoirs.
Ça sort de nulle part.
En fait, ça, c'est vraiment un vrai truc.
Non, oui, mais tu peux le teaser dans quelques épisodes. Là, c'est vraiment comme si, littéralement, les scénaristes s'est dit « Putain, on parle de quoi dans la saison 3 ?» Bah, mais, et sur le tournage, on fait « Mets la drogue, là. »
Mais non, ça marche dans un livre.
Oui, mais ça marche pas dans la série.
Parce que dans un livre, ton livre est terminé. Et puis, par exemple, pour un tome 2, c'est « Une nouvelle drogue vient d'arriver sur le marché. L'équipe de nanin doit faire face à ça et ouais, soigner
c'est
ou faire ci. »
C'est déjà pas très subtil dans un livre, quoi.
Quand non, même. Mais en tout cas, dans Six of Crow, il y a ça. Mais c'est vrai que là, ça sort de nulle part. Donc, on suppose qu'on va suivre cette histoire de Six of Crow. OK. Et avec le final, on suppose aussi qu'on va suivre l'histoire de Nikolai qui se transforme en truc de fumée, là.
Ah oui.
Et pourquoi Alina, elle veut cette couronne de ouf, là? Non, mais vraiment, elle a passé tout son temps à dire « Moi, je veux pas être reine. Je m'en fous. » Et le dernier épisode, tu la vois avec une couronne plus haute que celle du roi. T'es là... Hein? Quoi? Qui es-tu?
Non mais même Alina, son développement dans la saison 2 est pas du tout bien fait. Je vais encore comparer avec ce que j'estime être la meilleure écriture d'une saga young adult, enfin, que de l'adaptation, c'est Hunger Games, où vraiment il faut 4 films pour que Katniss, elle décide de passer de meuf qui veut pas de responsabilité à « Ok, je suis le symbole de la rébellion ». Et ben là, Alina, c'est... En un épisode de la saison 2, quoi. On la découvre dans la saison 2, c'est ça y est, je veux être la best.
Mais aussi
je veux tous les amplificateurs et je vais sauver la planète.
Je pense que ce qui fait que c'est méga faux, c'est que la temporalité est très très mal gérée. C'est un gros problème de la série. Les gens passent de Ketterdam à Ravka en 2-2. Ils se téléportent.
Oh putain,
je pense qu'ils se téléportent. Les gens passent de Shuan, qui est vraiment un autre pays, hein, très loin, à Ravka en 2-2. Tout le monde se téléporte dans la série. Et vraiment, la quête du flagelleur des mers, ça dure pas 2 jours sur un bateau. Hein. C'est un truc où les gars, ils sont restés au moins 3 mois à chercher le flagelleur. Enfin, tout est une mauvaise temporalité. Du coup, en fait, t'as l'impression que les personnages, ils se connaissent depuis 2 jours et qu'ils sont ultra proches.
Bah, genre vraiment. Avec Nikolai, c'est ça.
Nikolai et Alina, t'as l'impression vraiment...
C'est des bestes alors
best
que...
Best friend de ouf. Les gars, ça fait 3 jours que vous connaissez. Parce que la temporalité est mal gérée. Et il y a des trucs tout simples dans des visuellement pour faire ça. Je sais pas, tu mets le ciel qui change de couleur, tu mets j'en sais rien, tu les mets en train de chercher le truc sur une carte et tu vois le soleil qui défile. Enfin, trouver des solutions. Tu mets
montrer que c'est l'hiver.
J'en sais rien, mais il y a vraiment des solutions pour montrer que le temps passe. Et du coup, dans ta tête, tu dis « Ah oui, ça a passé, donc voilà. » Mais non.
Et est-ce que vous avez vu la super scène où ça fait du coup visiblement très très longtemps qu'ils sont en mer. J'ai dit à Mathilde, mais moi ça m'a fait rire tout seul devant le truc. Ça fait quand même très longtemps qu'ils sont en mer. Ils arrivent, ils se disent il faut qu'on trouve des armes. Et là, ils les réunissent tous dans leur salle qui a l'air d'être leur salle à manger.
Oui.
Ils tirent sur un petit fil et ça fait sortir. Y a un mur où en fait il y avait des tentures devant qui s'éloignent sur les côtés et on voit plein d'armes qui apparaissent. Et ça fait très longtemps qu'ils sont en mer et jamais ils ont pensé à tirer sur ce bout de fil ou à regarder ce qu'il y avait derrière ces draps. Je me suis dit, mais ça n'a aucun sens, c'est
et
leur
le
salle
pire,
à manger.
C'est que genre Toya et sa sœur,
ils sont précis,
Toya...
désolé,
mais... genre Toya et sa sœur vivent sur ce bateau depuis des années.
Mais ils font la même tête. Wow.
Mais non, tu vis sur le bateau depuis des années avec ce mec, tu sais que puis les armes sont cachées là.
C'est bizarre, elles sont pas cachées, elles sont.
Elles sont rangées quoi.
Oui,
elles sont juste rangées.
Bon bah voilà, vous avez compris qu'on a,
on a adoré.
Vraiment pas trop aimé cette saison de,
Désolée,
Shadow and Bone.
Je suis désolée, Lekbar Dugo, vous avez participé à la création de cette série,
il
alors
parle pas en français, t'inquiète.
Je suis triste pour vous.
Nous écoute, hein. C'est une des plus fidèles. On va enchaîner avec, on va clôturer avec les recos et les nouveautés du mois d'avril.
Oui.
Non, du mois de mai.
Oui. Ah, moi j'ai mis avril. Mais non, c'est avril.
Non, du mois de mai.
Mais non, 0,5. C'est avril.
C'est vrai que c'est avril.
Oui, du mois d'avril.
C'est avril, on a dit. C'est bon, on s'est trompé, pardon.
Recommandations et nouveautés du mois d'avril.
T'as coupé l'herbe sous le pied.
Ah ouais, si vous avez plus besoin de moi, je vais me coucher. Hein.
Bye bye. Oui, c'était bien du mois d'avril. Hein. Ça continue en avril. The Power sur Prime Video avec un épisode par semaine. Pour l'instant, vous pouvez découvrir les trois premiers épisodes.
Tout à fait.
Et ça sera diffusé jusqu'au 11 mai. On a commencé à vous en parler sur l'épisode de Sérimania et on a vu le troisième épisode et on va continuer de voir tout ça.
Et dans mon épit aussi.
Oui, dans le épit de Damien, bien évidemment.
Je vois que tu m'oublies très vite. Mais, ouais.
C'est surfait.
Voilà, les rires enregistrés, c'est vraiment...
Il y aura également The Mandalorian, saison 3 sur Disney+, un épisode par semaine. 8 épisodes en tout jusqu'au 19 avril. On a commencé à regarder aussi.
C'est trop bien.
Scam France saison 11, probablement 10 épisodes en cours. Alors là, j'ai vu que ça a été reparti sur France TV slash. J'ai pas fini la saison 10, il me reste 20 minutes du dernier épisode.
C'est pas grave, pourquoi t'es aussi désespéré?
Parce que Scam, c'est dur. C'est beaucoup d'émotions. Villain Saga saison 2 sur Crunchyroll et Netflix, un épisode le lundi.
Je sais pas quand ça finit.
Tu sais pas quand ça finit?
Non.
Moi je regarderai pas, mais why not? Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury saison 1.
Faut changer ce nom. Il est trop long.
Crunchyroll,
en fait,
un épisode
Mobile
chaque
Suit Gundam, c'est le préfixe de tous les Gundam et ensuite tu rajoutes le vrai titre.
Bah, on dit Gundam.
C'est comme Star Wars de petits points.
Bah, en vrai, faudrait plutôt.
Petits points.
The Mandalorian, Star Wars de petits points.
Personne dit ça. C'est pas Star Wars de petits points.
Bah, la preuve, t'as dit The Mandalorian et t'as pas dit Star Wars de petits points.
C'est parce que quelqu'un a oublié.
Ah pardon. Pour le prochain, on y pensera.
Je suis vraiment pas sûr.
Ton humour est irrésistible.
Ah, il restera quand même quelque chose de Windows 13 dans cet épisode.
Oui, c'est vrai.
Forever avec nous.
Vinland Saga, c'est vraiment bien.
Et on les nouveautés d'avril qui débutent aujourd'hui.
Oui,
jeudi 6 avril, donc. Vous pourrez regarder Acharné, la saison 1, sur Netflix. Et Asperger, la saison 1, sur OCS. Asperger, on avait commencé à regarder à Sérimania. C'était trop
c'était
bien.
C'était ma série préf de tout Sérimania.
C'est
ah
ça.
Ouais.
Ouais.
D'accord.
Vendredi 7 avril, vous pourrez découvrir Transatlantique, la saison 1 sur Netflix. On a également découvert à Sérimania. Vous pourrez également voir Jusqu'ici tout va bien, une série française. Et ce sera la saison 1 également sur Netflix, qui était également dispo à Sérimania, mais qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir. Et il y aura Chupa, un film sur la mythologie mexicaine sur Netflix.
Est-ce que c'est avec les Chupacabras?
Oui, oui, oui.
Ça fait penser à Jumanji, tu disais.
En fait, ça fait penser plutôt... Enfin, oui, à Jumanji, parce que ça fait carrément penser au film d'aventure des années 90 avec des enfants.
Sympa.
Sinon, à partir du dimanche 9 avril, vous pourrez découvrir un épisode de Demon Slayer, la saison 4, chaque dimanche sur Crunchyroll. Et c'est peut-être bientôt. Netflix. Je ne sais pas.
C'est possible.
C'est très, très confus. Mais j'ai hâte.
Bah oui.
C'est trop bien.
Oui. Plus de mal à avoir de l'énergie maintenant, mais oui.
Après, après My Hero Academia, un petit Demon Slayer et hop, hop. Mercredi 12 avril, il y aura la saison 2 de Single Drunk Female que j'avais adoré. J'avais eu un énorme coup de cœur pour cette série. C'est dispo sur Disney+. Vendredi 14 avril, vous pourrez voir, attention, le final de The Marvelous Mrs. Maisel. Ça sera la saison 4 et ça sera dispo sur Prime Video. Ça va faire mal, ça va pleurer. Ça va être horrible.
Mais non, c'est bien de finir les histoires.
Oui.
Non, parce que j'ai pas envie que ça se termine, c'est trop bien. Vraiment, si vous aimez l'humour, regardez cette série.
Non, vraiment, il y a beaucoup de gens qui aiment l'humour. Hein.
Ouais,
on
bah
a
c'est
quand même
ça.
Regardé LOL qui ressort, donc à un moment
ouais.
Ouais, mais là, on est au-dessus quand même. On est quand même sur une
juste
femme qui fait du stand-up.
Il y a Pierre Ninet. Non, je rigole.
Ok. Également disponible sur Prime Video, la saison 1 de Salade grecque, suite de la trilogie de l'Auberge espagnole.
C'est réalisé par qui ?
Ah oui, par qui ? Dis-nous.
Par Cédric Clapiche.
Ah mais oui, monsieur Clapiche, bien évidemment. Le fameux,
on
le grand homme.
On a entendu parler tous les jours de Cédric Clapiche à Sérimania.
Oui, c'était vraiment l'homme du moment, apparemment. L'homme de l'année.
Il fait une série.
L'homme de la décennie.
L'homme. L'homme tout court.
L'homme français, parfait. La France lui doit tout.
Il a un nom marrant.
Et on pourra également découvrir vendredi 21 avril Les Gouttes de Dieu, la saison 1, sur Apple TV+. Et ça, c'est trop cool. C'est l'adaptation du manga du même nom. C'est trop, trop stylé. C'était aussi en avant-première à Sérimania. Jeudi 27 avril, Sweet Tooth, saison 2 sur Netflix. On avait trop kiffé la saison 1.
Cool.
C'était très sympa. C'est un sujet du mois que Damien n'avait pas vu. Et enfin, vendredi 28 avril, Peter Pan et Wendy sur Disney+. C'est un film en live action.
Yes.
Ah, ça risque d'être ça le thème. Ah bah non, c'est tard.
Et
c'est
Citadel, la saison 1 sur Prime Video.
Ça,
Citadel,
ça a l'air nul.
C'est... Oui, parce que je sais pas pourquoi tu l'as mis là, je l'ai vu.
Je sais plus.
C'est
ça
avec
sort.
L'actrice.
Ça a l'air vraiment
c'est
nul.
Avec l'actrice qui était dans Quantico.
Ouais.
Et avec un mec de Game of Thrones. Alors, quel sera le sujet du mois ?
Eh ben moi je vous propose eh ben Chupa.
Bah tout le monde propose Chupa alors.
Chupa eh ben, c'est validé.
Très bien, on parlera de Chupa.
Je le regarderai demain.
Le mois prochain.
Chupa. Chupa. Chupa.
C'est ainsi que se termine ce 29e épisode du Récapito. C'est déjà le 30e épisode le mois prochain. C'est beaucoup. Ok, pas de, aucune réaction.
Ah oui.
On espère
bah,
que
on est
cet
bientôt
épisode
au 30.
Vous a... Je viens vraiment de le dire. On espère que cet épisode vous a plu. Il sort un peu plus tard que d'habitude parce que il y a l'épisode de Sérimania qui nous a pris beaucoup de temps au montage et ça a retardé tout le programme. En tout cas, on espère que cet épisode aussi vous a plu parce qu'on s'est beaucoup amusé à le faire.
Attends, lequel ? Celui de Sérimania ou celui-là ?
Les deux.
Les deux.
Oh.
On espère que cet épisode
t'étais
vous a plu.
T'étais pas trop triste qu'on ait fait un truc sans
dit,
toi
ça.
Genre exclu de la team.
Bon, ça va.
T'auras qu'à venir l'année prochaine.
T'as vraiment dit ça avec une voix de pain bêche de lycée.
non mais... C'est ce que j'étais au lycée, une pain bêche.
C'est quoi une pain bêche ?
Je sais pas. Ça me fait penser à un oiseau très très.
Une perruche.
Ouais, non. Non, je sais pas.
J'ai pas la définition.
Un peu en flamme. Un
flamant rose.
Flamant rose. Attends. Oui, ça serait ça pour moi, une pain bêche.
Une pain bêche, c'est une fille présomptueuse et hautaine.
Ah bah c'est bon.
Pas loin.
C'est totalement loin.
C'est ça, c'est la voix.
C'est cette voix-là.
En tout cas, si ça vous dit, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Insta et Twitter et surtout sur le blog plaid.fr. On se retrouve donc
dans un mois pour parler de Chupa.
Chupa.
Merci Mathilde.
Oh mais de rien, merci à vous.
C'est vraiment la pire imitation d'une pimbèche. On dirait plus une bourgeoise.
Oui, elle est...
N'est-ce pas la même définition?
Bah pas tout à fait, non. Parce qu'il y avait petite fille dans le...
Ah, vous savez.
Et merci Damien.
Eh ben merci à toi.
Eh ben merci hurlé. De rien.
Bonsoir.
Bonne bisous.
Salut.
À plus, ciao.